Chapitre 16. J'avoue que j'étais déconcerté et un peu déprimé à mon arrivée sur les montagnes du ciel. J'avais dormi en fût cryotechnique pendant 3 mois et 2 semaines. Je croyais que dans cet état, on ne faisait pas de rêves, mais je me trompais. J'eus presque tout le temps des cauchemars et me réveillais désorienté et inquiet. Le point de translation du système dont nous partions n'était qu'à 17 heures de la planète. Mais dans celui de Tian Shan, nous sommes sortis de C+, au-delà de la dernière planète glacée, et nous dûmes ralentir pendant 3 jours pleins. Je fis du jogging sur les différents ponts, montant et descendant l'escalier en spirale, et sortant même sur le petit balcon que j'avais demandé au vaisseau d'expulser. Je me disais que j'essayais de remettre ma jambe en forme. J'en souffrais toujours, bien que le vaisseau prétendît que l'autochirurgien l'avait guérie et qu'elle ne devait plus me faire mal. Mais en réalité, je tentais d'épuiser mon énergie nerveuse. Je ne crois pas avoir jamais été aussi angoissé auparavant. Le vaisseau voulut m'apprendre tout sur ce système stellaire avec un luxe de détails insupportable. Étoile jaune de type G, blablabla. Eh bien, je pouvais voir qu'il y avait 11 planètes, 3 géantes gazeuses, 2 ceintures d'astéroïdes, un pourcentage élevé de comètes dans le système intérieur, blablabla. Je ne m'intéressais qu'à Tian Shan et je restais assis sur la moquette de la fosse Holo à la regarder grandir. Ce monde était étonnamment brillant, d'un éclat aveuglant. Une perle scintillante qui se détachait sur le noir de l'espace. Ce que vous voyez, c'est la couche permanente de nuages la plus basse, ronronnait le vaisseau. L'albédo est impressionnant. Il y a d'autres nuages plus hauts. Vous voyez ces tourbillons d'orage sur la partie inférieure droite de l'hémisphère éclairé? Ces cirrus qui projettent des ombres près de la calotte polaire nord? Ce sont les nuages qui apporteraient le temps, beau ou mauvais, aux habitants humains. Où sont les montagnes? Demandai-je. Là, répondit le vaisseau en traçant un cercle autour d'une ombre grise dans l'hémisphère nord. D'après mes vieilles cartes, c'est un grand pic des chaînes septentrionales de l'hémisphère oriental, le Chomolori, la reine des neiges. Et vous voyez ces stries qui en partent vers le sud? Vous voyez comme elles restent groupées jusqu'à ce qu'elles franchissent l'équateur, et alors elles s'écartent de plus en plus jusqu'à disparaître dans les masses nuageuses du pôle sud? Les grandes arêtes en dents de scie, la crête de Fari et la crête de Kunlun, furent les premières chaînes rocheuses habitées de la planète et d'excellents exemples du violent soulèvement équivalent qui se produisit au début du Crétacé dans le Dakota. Bla, bla, bla. Et moi, je ne pensais qu'à aîné, aîné et encore aîné. C'était étrange d'entrer dans un système sans que les vaisseaux de la flotte de la Pax tentent de s'emparer de moi. Un système dépourvu de défense orbitale, de base lunaire. Il n'y avait même pas de base sur la sphère géante orangée d'un satellite sur lequel quelqu'un semblait avoir tiré un unique boulet. Aucune traînée de propulsion Hawking, ni d'émission de neutrinos ou de lentilles gravitationnelles. Pas de couloir réservé aux drones à Gébussard. Aucun signe d'une technologie avancée. Le vaisseau dit qu'il y avait quelques rares émissions d'ondes courtes émanant de certaines régions de la planète, mais quand je les eus décodées, il s'avéra qu'elles étaient en chinois pré-égyrien. Ce fut un choc. Je n'avais jamais été sur un monde où la majorité des humains parlait autre chose qu'une version de l'anglais du Retz. Le vaisseau se mit en orbite géosynchrone au-dessus de l'hémisphère oriental. Dans la fosse Holo, la vue télescopique zooma sur une belle dent de neige et de glace qui traversait au moins 3 couches de nuages avant que le sommet scintille, clair et brillant, au-dessus de la plus grande partie de l'atmosphère. « Mon Dieu » chuchotai-je. « Et où est Suan Kunsu, le temple suspendu dans les airs ?»« Il devrait être là, » répondit le vaisseau. Nous étions juste au-dessus d'une arête verticale de glace, de neige et de roches grises. Des nuages bouillonnaient à la base de cet incroyable bloc. Je le regardais par le viseur de l'appareil holo. Pourtant, le vertige me fit vaciller et je m'accrochais au coussin de ma couchette. « Où ? » demandai-je. Il n'y avait aucune structure en vue. « Ce triangle sombre, » dit le vaisseau en encerclant ce que j'avais pris pour une ombre sur un bloc de pierre grise. « Et cette ligne, là ? » « Quel est le taux d'agrandissement ? » Le triangle fait approximativement 1,2 mètre sur son côté le plus long, répondit la voix que j'avais appris à connaître aussi bien que mon père Soc. Un bâtiment bien trop petit pour que des gens y vivent, fis-je remarquer. Non, non. C'est seulement la partie d'une structure de fabrication humaine qui dépasse d'un surplomb rocheux. Je présume que le prétendu temple suspendu dans les airs se trouve sous ce surplomb. La roche est plus que verticale à cet endroit. Elle plonge en retrait sur 60 ou 80 mètres. Pourrions-nous avoir une vue de profil pour que je puisse apercevoir le temple? Je pourrais. Il faudrait nous repositionner sur une orbite plus septentrionale afin que je puisse me servir du télescope pour regarder au sud, au-dessus de la cime du Zhengshan, et passer à l'infrarouge pour traverser la masse nuageuse qui se déplace à 8000 mètres d'altitude entre le pic et l'arête dentée sur laquelle le temple est construit. Et je devrais aussi, laisse tomber, envoie juste un faisceau étroit dans la zone de ce temple. Bon Dieu, balaye l'arête tout entière, pour voir si Aîné nous attend. Sur quelle fréquence ? Aînée n'avait mentionné aucune fréquence. Elle avait juste fait remarquer qu'il ne me serait pas possible d'atterrir au véritable sens du terme, mais qu'il faudrait effectuer la descente au niveau du Suan Kung Su. En regardant cette muraille verticale, pire que verticale, de neige et de glace, je commençais à comprendre ce qu'elle voulait dire. Aimer sur la fréquence ordinaire que nous utiliserions si nous parlions à une extension du Père Soc. Si tu n'obtiens pas de réponse, compose toutes les fréquences dont tu disposes. Tu peux essayer celle que tu as captée tout à l'heure. Elle venait du cadran plus méridional de l'hémisphère oriental, dit le vaisseau d'une voix patiente. Je n'ai capté aucune onde courte émanant de cet hémisphère. Fais-le, je t'en prie. Nous restâmes suspendus là pendant une demi-heure, balayant l'arête de messages sur faisceau étroit, puis émettant des signaux radio vers tous les pics de la région, et ensuite inondant l'hémisphère de courtes questions. Il n'y eut pas de réponse. « Existe-t-il vraiment un monde habité où personne n'utilise la radio ? » m'exclamai-je. « Bien sûr, » répondit le vaisseau. « Sur Ixion, c'est contre la coutume et les lois locales d'utiliser des communications sur ondes courtes. Sur la Nouvelle Terre, il y a eu un groupe qui... Ok, ok. » Pour la millième fois, je me demandais s'il y avait un moyen de reprogrammer cette intelligence autonome pour qu'elle ne soit pas aussi chiante. Fais-nous descendre. À quel endroit ? Il y a de vastes zones habitées sur la grande crête à l'est, appelée Taishan sur ma carte, et une autre cité au sud de la chaîne du Kunlun, appelée Si Wang Mu, je crois, et d'autres habitations le long de la chaîne du Fari, et à l'ouest de là, dans une région marquée Coconor, et aussi amène-nous au-dessus du temple suspendu dans les airs, dis-je. Heureusement, le champ magnétique de la planète était tout à fait adéquat pour les répulseurs EM du vaisseau. Aussi traversâmes-nous le ciel en planant, au lieu de descendre sur une traînée de flammes de fusion. Je sortis sur le balcon pour mieux voir, bien que la fosse au lot ou les écrans de la chambre du haut aient été plus pratiques. Cela parut durer des heures, mais en réalité, quelques minutes plus tard, nous flottions gentiment à 8000 mètres d'altitude, dérivant entre le pic fantastique qui se dressait au nord, le Hengshan, et l'arête qui abritait Suan Kung Su. J'avais vu la ligne terminatrice surgir de l'est tandis que nous descendions, et d'après le vaisseau, on était ici en fin d'après-midi. J'emportais des jumelles sur le balcon et je regardais. Je pouvais voir clairement le temple. Je pouvais le voir, mais je n'arrivais pas encore à y croire. Ce qui avait ressemblé à un simple jeu de lumière et d'ombre sous les immenses blocs striés de granit gris surplombant l'abîme était une série de bâtiments s'étendant à l'est et à l'ouest sur plusieurs centaines de mètres. J'y décelais aussitôt une influence asiatique. Pagode aux toits de tuiles d'un noir d'ébène et aux avant-toits volutés, dont les surfaces minutieusement carrelées et dorées scintillaient à la brillante lumière du soleil. Fenêtres rondes et portes circulaires dans les parties inférieures en briques de la superstructure, porches en bois léger aux rampes finement sculptées, délicats piliers de bois peint couleur de sang séché, sculptures complexes sur les poutres du toit et les fêtes de la tour, ponts suspendus et escaliers festonnés de roues et de banderoles de prière qui, comme je l'appris plus tard, offraient une prière à Bouddha chaque fois qu'une main humaine les touchait ou que le vent les agitait. Le temple était encore en construction. Je vis que l'on portait du bois brut jusqu'aux plateformes élevées. Je vis des silhouettes humaines qui sculptaient au burin la paroi de pierre de la crête. Je vis sur l'échafaudage les grossières échelles, les ponts rudimentaires faits de matières végétales tissées, ayant pour garde-fous des cordes d'escalade. Des silhouettes droites qui montaient des paniers vides, et d'autres courbés qui descendaient les mêmes paniers pleins de pierres jusqu'à une large dalle où ils étaient vidés dans l'espace. Nous étions assez près pour que je puisse voir que beaucoup de ces silhouettes humaines portaient des robes colorées qui leur descendaient presque jusqu'aux chevilles, certaines gonflées par le vent violent qui soufflait sur la paroi rocheuse, et que ces robes semblaient épaisses et doublées. J'apprendrai plus tard que ces tchoubas étaient omniprésentes, et qu'elles pouvaient être en épaisse laine de zichèvre imperméable à l'eau, ou en soie pour les cérémonies, ou même en coton, bien que cette dernière matière soit rare et très prisée. Le fait de montrer notre vaisseau aux indigènes m'inquiétait. J'avais peur de provoquer une panique ou une attaque au lance-laser, mais je ne voyais pas que faire d'autre. Nous étions encore à plusieurs kilomètres. Aussi, au pire, nous devions ressembler à un inhabituel reflet du soleil sur du métal sombre, flottant contre la toile de fond que formait le pic Nord. J'avais espéré qu'il nous prendrait seulement pour une sorte d'oiseau. Le vaisseau et moi avions vu beaucoup d'oiseaux dans le viseur, dont certains avaient une envergure de plusieurs mètres. Mais cet espoir s'évanouit lorsque je vis d'abord quelques ouvriers du temple s'arrêter dans leur labeur et regarder dans notre direction, puis un plus grand nombre faire de même. Aucun ne paniqua. Personne ne se précipita pour se mettre à l'abri ou récupérer des armes. Je ne voyais d'armes nulle part. Mais il était évident qu'on nous avait aperçus. Je remarquai que deux femmes en robes longues se mirent à gravir en courant la série de bâtiments du temple en gradins, par des ponts suspendus, des escaliers, des échelles à pic et le dernier échafaudage de la partie en construction, jusqu'à la plateforme la plus à l'est où, semblait-il, on creusait des trous dans la muraille rocheuse. Il y avait là une espèce de cabane, et l'une des femmes disparut à l'intérieur pour ressortir un instant plus tard avec plusieurs silhouettes plus grandes en tchouba. J'augmentais le grossissement de mes jumelles, mon cœur battait contre mes côtes, mais de la fumée montait du chantier et je ne pus m'assurer que la personne la plus grande était bien aînée. Pourtant, à travers les voiles de brume tourbillonnant, j'entrevis des cheveux blonds cendrés qui ne tombaient pas tout à fait jusqu'aux épaules, et durant un moment, je baissai mes jumelles et me contentai de regarder fixement la muraille lointaine en souriant comme un idiot. « On nous envoie un signal, » dit le vaisseau. Je regardai de nouveau au travers de mes lentilles. Une autre personne, une femme je pense, mais aux cheveux plus foncés, agitait deux pavillons de sémaphore. « C'est un ancien code de signalisation, » dit le vaisseau. « On appelait cela le Morse. Les premiers mots sont « tais-toi », dis-je. » On apprenait le Morse dans la garde nationale et je l'avais utilisé une fois, avec deux bandages tachés de sang, pour appeler des glisseurs médévac sur le plateau de glace. Là, fissure, 10 clics, au nord-est. Restez là. Attendez nos instructions. Tu as pigé, vaisseau ?
Oui.
Sa voix semblait toujours froide lorsque j'avais été rude avec lui. Allons-y. Je pense que tu vois une trouée environ 10 clics au nord-est. Restons aussi éloignés que nous le pouvons et aborde cet endroit de l'est. Je ne pense pas qu'ils nous verront du temple et je n'aperçois pas d'autres bâtiments sur le versant de la montagne dans cette direction. Sans autre commentaire, le vaisseau contourna la muraille rocheuse à pic jusqu'à ce que nous arrivions à la fissure, une crevasse verticale qui s'enfonçait sur plusieurs milliers de mètres, jusqu'au point où elle convergeait, à environ 400 mètres au-dessus du niveau du temple, qui était maintenant invisible, par-delà la courbe de la paroi rocheuse à l'ouest. Le vaisseau descendit verticalement, en planant, jusqu'à ce que nous soyons à 50 mètres au-dessus du fond de la fissure. Je fus surpris de voir des ruisseaux couler sur les parois rocheuses à pic de ce gouffre et se rassembler au centre avant de se déverser dans l'air ténu comme une chute d'eau. Il y avait des arbres, de la mousse, du lichen et des plantes à fleurs dans cette crevasse, des prairies entières qui s'élevaient sur des centaines de mètres entre les ruisseaux, jusqu'à devenir finalement de simples bandes de lichens multicolores montant vers les glaciers. Je fus d'abord certain qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion humaine, puis j'aperçus des corniches taillées dans la paroi nord, à peine assez larges pour qu'on y tienne, pensais-je, puis des sentiers qui traversaient la mousse d'un vert brillant, et les pierres d'un guet astucieusement placées dans le courant. Enfin, je remarquai le minuscule petit bâtiment effrité, trop petit pour être une cabane, plutôt un belvédère pourvu de fenêtres, sous des arbres à feuilles persistantes sculptés par le vent, au bord du ruisseau, près du col verdoyant de la fissure. Je le signalai et le vaisseau s'éleva, vint planer près du belvédère. Je compris pourquoi il serait difficile, sinon impossible, d'atterrir ici. Le vaisseau du consul n'était pas si grand que cela. Il était resté caché pendant des siècles dans la tour de Pierre d'Endymion, la cité du vieux poète. Mais même s'il atterrissait ici verticalement sur ses nageoires ou ses pattes extensibles, il écraserait les arbres, l'herbe, la mousse et les plantes à fleurs. Tout cela semblait trop rare dans ce monde de roches verticales pour être ainsi détruit. Alors nous restâmes là, à flotter dans l'air, et à attendre. Environ une demi-heure après notre arrivée, une jeune femme apparut sur le sentier venant des corniches taillées dans le roc et nous fit de grands signes d'amitié. Ce n'était pas aîné. J'avoue que je fus désappointé. Mon désir de revoir ma jeune amie avait tourné à l'obsession et je suppose que j'avais élaboré d'absurdes scénarios de cette réunion. Aînée et moi courant l'un vers l'autre dans un champ plein de fleurs, elle, redevenue l'enfant de 11 ans, moi, son protecteur, tous deux riant du plaisir de nous revoir et moi la soulevant et la faisant tournoyer, la lançant en l'air. Eh bien, il y avait du moins la prairie. Le vaisseau resta sur place et morfa un escalier jusqu'au gazon émaillé de fleurs près du belvédère. La jeune femme traversa le ruisseau en sautant de pierre en pierre avec un sens parfait de l'équilibre et gravit le tertre herbu en me souriant. Elle avait une 20aine d'années. Elle possédait la grâce physique et l'intense présence dont étaient imprégnées les milliers d'images que je gardais de ma jeune amie. Mais je n'avais jamais vu cette femme de ma vie. Se pouvait-il qu'aînée ait changé à ce point en 5 ans? Se pouvait-il qu'elle se soit déguisée pour échapper à la Pax? Avais-je simplement oublié son apparence? La dernière hypothèse semblait improbable. Non, impossible. Le vaisseau m'avait assuré que pour aînée, il s'était écoulé 5 ans et quelques mois si elle m'attendait sur ce monde, mais mon voyage tout entier, y compris la fugue cryotechnique, n'avait duré pour moi que 4 mois. Je n'avais vieilli que de quelques semaines. Je n'aurais pas pu l'oublier. Je ne l'aurais jamais oublié.
« Bonjour, Roll, »
dit la jeune femme aux cheveux noirs. « Bonjour, » dis-je. Elle se rapprocha et tendit la main. Sa poignée de main était ferme.
« Je suis Rachel. Aînée vous a parfaitement décrit. »
Elle rit.
« Bien sûr, personne d'autre n'aurait pu arriver dans un vaisseau pareil. »
Elle agita la main dans la direction du vaisseau, suspendu là comme un aérostat vertical, montant et descendant doucement dans le vent. « Comment va Aînée ? » demandai-je d'une voix qui me parut étrangère. « Où est-elle ? »
« Oh, elle est au temple. Elle travaille. On est en plein milieu de la période de travail la plus active. Elle ne pouvait pas s'en aller. Elle m'a demandé de venir et de vous aider à disposer de votre vaisseau. »
« Elle ne pouvait pas s'en aller. Qu'est-ce que c'était que cette foutaise ? J'avais littéralement traversé l'enfer, souffert de calculs rénaux et de jambes cassées, été poursuivi par les soldats de la Pax, puis jeté dans un monde sans sol, mangé et régurgité par un extraterrestre, et elle ne pouvait pas quitter son travail. » Je me mordis la lèvre, luttant contre l'envie de dire ce que je pensais. Je reconnais que mes émotions bouillonnaient plutôt. « Disposer de mon vaisseau ? Que voulez-vous dire ?» Je regardais autour de moi. « Je ne vois, ici, aucun endroit où il puisse atterrir. »«
Il n'y en a pas, »
dit la jeune femme appelée Rachel. En la regardant dans la brillante lumière du soleil, je m'aperçus qu'elle était probablement un peu plus âgée qu'aînée le serait, 25 ans peut-être. Ses yeux bruns étaient intelligents, ses cheveux châtains coupés avec aussi peu de soin que ceux d'aîné, sa peau hâlée par de longues heures passées au soleil. J'avais senti sur sa main les cales dues au travail, et il y avait des rides de rire au coin de ses yeux.
« Pourquoi ne pas prendre ce dont vous avez besoin ?»
dit Rachel. « Un persoc ou un communicateur ? Afin de pouvoir rappeler le vaisseau quand vous en aurez besoin, sortir deux combinaisons peau et deux respirateurs du vestiaire, puis dire au vaisseau de sauter jusqu'à la troisième lune, le plus petit astéroïde capté. Il y a là un profond cratère où il pourra se cacher. De plus, cette lune est sur une orbite presque géosynchrone et garde toujours le même côté tourné vers notre hémisphère. Vous pourrez lui envoyer un faisceau large et il sera de retour en quelques minutes. »
Je la regardais d'un air soupçonneux. Pourquoi des combinaisons peau et des respirateurs? Le vaisseau en avait. Ils étaient conçus pour de courts séjours dans un vide bénin où une véritable combinaison spatiale n'était pas exigée. L'air me semble assez respirable ici.
Il l'est. À cette altitude, il y a une atmosphère riche en oxygène. Mais Aîné m'a dit de vous demander d'apporter des combinaisons peau et des respirateurs.
Pourquoi ?
Je l'ignore, Roll.
Les yeux de Rachel étaient placides. Je n'y décelais aucune duperie, aucune fourberie. Pourquoi le vaisseau doit-il se cacher ? La Pax est ici ?
Pas encore. Mais nous les attendons depuis 6 mois environ. Pour le moment, il n'y a pas d'astronef sur ou autour de Tien Shan, sauf votre vaisseau. Pas d'avion non plus. Pas de glisseur, pas de VEM, ni topter, ni hélico. Seulement des paraglisseurs, ceux des volants. Ils n'iraient jamais si loin dans l'espace.
Je hochais la tête, mais hésitais.
Les Ducpa ont vu quelque chose aujourd'hui qu'ils n'arrivaient pas à expliquer,
poursuivit Rachel.
Je parle de la petite tache de votre vaisseau sur Chomolori. Mais ils finissent généralement par expliquer n'importe quoi en termes de tendrelle. Si bien qu'il n'y aura pas de problème.
Qu'est-ce que ça veut dire, tendrelle ? Et qui sont les Ducpa ?
Les tendrelles, ce sont des signes, des divinations dans la tradition bouddhiste chamaniste qui prévaut dans cette région des montagnes du ciel. Les Ducpa sont les... Eh bien, le mot se traduit littéralement par « les plus élevés ». Le peuple qui réside à très haute altitude. Il y a aussi les Drukpa, le peuple de la vallée, c'est-à-dire des fissures les plus basses, et les Drungpa, le peuple des vallées boisées, ceux qui vivent dans les grandes forêts de fougères et de bambous bonsaï, aux frontières occidentales de la crête du Fari et au-delà.
Alors, Aîné est au temple, dis-je avec entêtement, en me refusant à suivre la suggestion qu'avait faite la jeune femme de cacher le vaisseau.
Oui.
Quand la verrai-je ?
Dès que nos pieds nous y amèneront, Roll,
répondit Rachel en souriant. Cela fait combien de temps que vous connaissez Aîné ?
Environ 4 ans.
Vous êtes originaire de ce monde ? Elle sourit de nouveau, acceptant patiemment mes questions.
Non. Quand vous rencontrerez les Ducpa et les autres, vous verrez que je ne suis pas une indigène. La plupart des gens de cette région descendent de Chinois, de Tibétains et d'autres peuples d'Asie centrale.
D'où êtes-vous originaire ? Demandai-je tout net, conscient d'être impoli.
Je suis né sur le monde de Parnar. Une petite planète agricole bien tranquille. Des champs de maïs, des bois, de longues soirées et quelques bonnes universités, mais pas grand-chose d'autre.
J'en ai entendu parler. Cela me rendit encore plus soupçonneux. Les bonnes universités, sur lesquelles le monde de Barnard fondait sa renommée pendant l'hégémonie, avaient depuis longtemps été converties en académies et en séminaires de l'Église. Je fus pris du brusque désir de voir nue la poitrine de la jeune femme, de voir s'il y avait là un cruciforme. Ce serait beaucoup trop facile pour moi de renvoyer le vaisseau et de tomber dans un piège de la Pax. Où avez-vous rencontré Aîné ? Ici ?
Non, pas ici. Sur Amritsar.
Amritsar ? Je n'ai jamais entendu parler de cette planète.
Cela n'a rien d'étonnant. Amritsar est un monde marginal selon l'échelle de Solmef, loin au-delà des confins, colonisée il y a un siècle seulement, par des réfugiés d'une guerre civile sur Parvati. Quelques milliers de sikhs et de soufis y vivotent. Aîné avait été embauché pour dessiner les plans d'une bourgade dans le désert, et moi pour faire les relevés et diriger les ouvriers. Depuis, je ne l'ai plus quitté.
Je hochai la tête, toujours hésitant. J'étais plein d'un sentiment qui n'était pas seulement de la déception et déferlait comme de la colère, mais à la limite de la jalousie. C'était absurde. Et abétique, dis-je, traversé par l'intuition soudaine que l'androïde était mort au cours des 5 dernières années. Est-il...
Il s'est rendu au marché de Fari pour notre réapprovisionnement bi-hebdomadaire,
dit la femme appelée Rachel. Elle mit la main sur mon bras.
Abétique va bien. Il reviendra ce soir au lever de la lune. Venez, préparez vos affaires. Dites au vaisseau de se cacher sur la troisième lune. Il vaut mieux que ce soit Aîné qui vous raconte tout cela.
Pour finir, je ne pris que des vêtements de rechange, une bonne paire de bottes, mes petites jumelles, un couteau à gaine et le journal Unitécom du vaisseau qui tenait dans la paume de ma main. Je fourrai tout cela dans un sac à dos, dévalai les marches et, une fois dans la prairie, dis au vaisseau ce qu'il devait faire. Je l'avais tellement anthropomorphisé que je m'attendais à ce qu'il boude à l'idée de se remettre en mode hibernation, et sur une lune dépourvue d'air cette fois, mais le vaisseau accusa réception de l'ordre, proposa de lancer chaque jour un signal par faisceau large pour s'assurer que l'unité comme fonctionnait bien, partit en planant, se réduisit à un petit point, puis disparut, comme un aérostat dont on a coupé la corde. Rachel me donna une chouba de laine à enfiler sur ma veste thermique. Je remarquai le harnais de nylon qu'elle portait sur sa veste et son pantalon, l'équipement d'escalade suspendu aux sangles, et la questionnai à ce sujet.
« Aîné a un harnais pour vous au temple, »
dit-elle en faisant bruire le matériel échelonné sur le baudrier.
« C'est la technologie la plus avancée de ce monde. Les forgerons de Potala exigent et reçoivent une rançon de roi pour ce genre de choses. Crampons, poulies sur câble, piolets et massettes pliants, anneaux anti-chocs, mousquetons, broches perdues, bongs, pitons bec d'oiseau, tout ce que vous pouvez imaginer.
« J'en aurais besoin ?» demandai-je d'un ton dubitatif. On apprenait les bases de l'alpinisme dans la garde nationale, montée en rappel, traversée de crevasses, ce genre de choses. Et j'avais fait un peu d'escalade encordée dans des carrières quand je travaillais avec Avrol Hume sur le bec. Mais du véritable alpinisme, c'était autre chose. Je n'aimais pas l'altitude.
« Vous en aurez besoin, mais vous vous habituerez très vite, »
affirma Rachel. Puis elle partit, traversant le gué de pierre en pierre et courant avec légèreté sur le sentier qui montait vers le bord de l'escarpement. Le matériel accroché à son harnais cliquetait doucement, tel un carillon en acier ou les clochettes attachées au cou des chèvres des montagnes. La marche de 10 kilomètres le long de la paroi rocheuse abrupte fut assez facile lorsque je me fus accoutumé à l'étroite corniche, à l'abîme qui plongeait vertigineusement sur notre droite, à l'éclat aveuglant des montagnes incroyables, au nord, à celui des nuages bouillonnants loin en dessous, et à la montée capiteuse de mon énergie vitale, due à la richesse de l'atmosphère.
« Oui, » dit Rachel lorsque je fis allusion à l'air. « Cet excès d'oxygène poserait un problème s'il y avait des forêts ou des savanes qu'un incendie pourrait détruire. Vous verrez les orages de la mousson. » Mais le bois de bonsaï ici, dans la crevasse, et les forêts de fougères sur le versant pluvieux du Fari, c'est tout ce que nous avons comme matériaux combustibles. Il n'y en a pas d'autres. Et le bonsaï, dont nous nous servons d'ailleurs dans nos constructions, est presque trop dense pour brûler.
Durant un moment, nous marchâmes l'un derrière l'autre en silence. Mon attention était fixée sur la corniche. Nous venions juste de tourner un coin raide qui exigea que je penche la tête sous le surplomb lorsque la saillie s'élargit, et alors Swang Kung Su, le temple suspendu dans les airs, apparut. Vu de plus près, et un peu d'en dessous, il semblait toujours planer par magie en plein ciel, au-dessus du vide. Certains des bâtiments les plus bas et les plus anciens avaient des soubassements en pierre ou en briques, mais la plupart étaient construits sur l'air même. Ces édifices, style pagode, s'abritait sous le grand surplomb rocheux qui s'élevait à 75 mètres au-dessus des bâtiments principaux, mais des échelles et des plateformes montaient en zigzag presque jusqu'à le toucher. Nous rejoignîmes les gens. Les tchoubas de différentes couleurs et les harnais d'escalade n'étaient pas le seul dénominateur commun. La plupart des visages qui me regardaient avec une curiosité polie semblaient appartenir à la souche asiatique de l'ancienne Terre. Ils étaient relativement petits pour un monde à gravité approximativement standard. Ils s'écartaient respectueusement et saluaient Rachel qui fendit la foule, gravit des échelles, traversa les grands vestibules de certains bâtiments à l'odeur de santal et d'encens, franchit des porches et des ponts qui se balançaient et monta de délicats escaliers. Bientôt, nous atteignîmes les niveaux supérieurs du temple où la construction se poursuivait sur un rythme rapide. Les petites silhouettes que j'avais vues dans mes jumelles étaient maintenant des êtres humains vivants qui soufflaient et grognaient sous les lourds paniers de pierre, des individus qui sentaient la sueur et le travail. L'efficacité silencieuse que j'avais observée du balcon du vaisseau devint un mélange bruyant de coups de marteau, de tintements de burin, d'échos de pioche, de cris d'ouvriers gesticulant au sein de ce chaos contrôlé, commun à tout chantier de construction. Après plusieurs escaliers et trois longues échelles s'élevant jusqu'à la plateforme la plus haute, je m'arrêtai pour reprendre mon souffle avant de gravir la dernière. Atmosphère riche en oxygène ou pas, cette escalade était une dure épreuve. Je remarquai que Rachel me regardait avec une sérénité qui pouvait aisément être prise pour de l'indifférence. En levant les yeux, je vis une jeune femme s'avancer au bord de la dernière plateforme et en descendre gracieusement. Durant la plus brève des secondes, je sentis mon cœur taper d'émotion, aîné. Mais lorsque la femme se tourna, je vis de dos les cheveux bruns coupés courts et compris que ce n'était pas mon amie. Rachel et moi, nous nous écartâmes du bas de l'échelle lorsque l'inconnue sauta les derniers échelons. Elle était robuste, aussi grande que moi, avec des traits vigoureux et d'étonnants yeux violets. Elle avait 40 ou 50 années standard, était très hâlée, en pleine forme, et d'après les rides blanches qui marquaient les coins de ses yeux et de sa bouche, il me parut qu'elle prenait aussi plaisir à rire.
« Roland Dimion, » dit-elle en me tendant la main. « Je suis Théo Bernard. Je participe à la construction. »
Je hochai la tête. Sa poignée de main était aussi ferme que celle de Rachel.
« Aîné vient juste de terminer. »
Théo montra l'échelle du geste. Je jetai un coup d'œil à Rachel.
« Il faut monter. Nous avons des choses à faire. »
Je m'élevai main après main. Il y avait probablement 60 barreaux à l'échelle de bambou et j'étais conscient tout en grimpant que si l'on tombait, la plateforme en dessous était très étroite et la chute, au-delà, infinie. En mettant le pied sur la plateforme, je vis de grossières cabanes d'ouvriers et repérai les endroits de pierres ciselées où allait se dresser le dernier bâtiment du temple. Je sentais les innombrables tonnes de roches à 10 mètres au-dessus de moi, là où le surplomb obliquait vers le haut et vers l'extérieur pour former un plafond de granit. De petits oiseaux aux queues fourchues passaient comme des flèches et descendaient en piqué entre les lézardes et les fissures. Puis, toute mon attention se fixa sur la silhouette qui émergea de la plus grande des deux cabanes du chantier. C'était Aîné. Les yeux sombres et hardis, le sourire plein de naturel, les pommettes saillantes et les mains délicates, les cheveux blonds cendrés coupés à la diable et soulevés par le vent fort qui longeait l'escarpement. Elle n'était pas beaucoup plus grande que lorsque je l'avais vue pour la dernière fois. Je pouvais déjà baiser son front sans me pencher. Mais elle avait changé. Je repris soudain ma respiration. J'avais vu des gens grandir et mûrir, bien sûr, mais la plupart étaient mes amis à l'époque où moi aussi je grandissais et mûrissais. Je n'avais jamais eu d'enfant et je n'avais jamais observé attentivement la croissance de quelqu'un que durant les 4 années de mon amitié avec cette petite fille-là. Sur beaucoup de points, je m'en aperçus, Aîné ressemblait encore à la très jeune fille qu'elle était à son 16e anniversaire, 5 ans auparavant, mais elle avait perdu ce qui lui restait à l'époque de graisse enfantine. Ses pommettes étaient plus saillantes et ses traits plus fermes, ses hanches plus larges et ses seins légèrement plus proéminents. Elle portait un pantalon de grosse toile, de hautes bottes, une chemise verte datant de Taliesin West et une veste kaki qui claquait dans le vent. Je vis que ses bras et ses jambes étaient plus vigoureux, plus musclés que dans mes souvenirs de l'ancienne terre, mais ce n'était point tant cela qui avait changé. Tout était transformé en elle. L'enfant que je connaissais n'était plus. Une femme avait pris sa place. Une femme étrangère qui s'avançait rapidement vers moi sur la plateforme rudimentaire. Ce n'était pas seulement les traits forcis, une silhouette toujours mince mais plus ronde, c'était une certaine solidité, une présence. Aînée avait toujours été la personne la plus vivante, la plus animée et la plus accomplie que j'ai jamais connue, même enfant. Maintenant, l'enfant avait disparu, ou du moins s'était immergé dans l'adulte, et je pouvais voir de la solidité dans cette aura dynamique.
Roll !
Elle parcourut les derniers pas, s'arrêta tout près de moi et prit mes avant-bras dans ses mains vigoureuses. Durant une seconde, je crus qu'elle allait m'embrasser sur la bouche comme elle l'avait fait, comme l'enfant de 16 ans l'avait fait, pendant les dernières minutes que nous avions passées ensemble sur l'ancienne terre. Au lieu de cela, elle leva une main, la posa sur ma joue et fit courir ses longs doigts de ma pommette à mon menton. Ses yeux marrons étaient pleins de quoi ? Pas d'amusement, de vitalité peut-être, de bonheur, osais-je espérer. Je restais muet. J'essayais de parler, m'arrêtais, levais la main droite comme pour lui caresser la joue, puis la laissais retomber.
Roll ! Bon Dieu ! Ah, c'est si bon de te voir !
Elle ôta la main de mon visage et me serra dans ses bras avec une intensité à la limite de la violence.
Moi aussi, je suis content de te revoir, ma grande.
Je lui tapotais le dos, sentant le tissu grossier de sa veste sous ma paume. Elle recula, souriant maintenant d'une oreille à l'autre, et reprit possession de mes avant-bras.
Est-ce que le voyage jusqu'au vaisseau a été pénible ? Raconte !
5 ans, pourquoi ne m'as-tu pas dit ?
Je l'ai fait, je l'ai crié.
Quand ? À Hannibal ? Quand j'étais...
Oui, alors j'ai crié « je t'aime », tu t'en souviens ?
Je m'en souviens, mais si tu savais... 5 ans, je veux dire que... Nous parlions en même temps, bafouillant presque. Je me retrouvais en train d'essayer de lui dire tout sur les distances, le calcul rénal sur Vitus Grey Balianus B, les gens de l'hélice du spectre d'Amoyette, le monde de nuages, la sèche en cornet, tout en lui posant des questions et en reprenant la parole avant qu'elle ait pu répondre. Aînée ne cessait de sourire.
« Tu es toujours le même rôle, semble-t-il.
Mais bien sûr, comment serait-il autrement ?
Pour toi, cela n'a été qu'une semaine ou deux de voyage et un sommeil froid sur le vaisseau ?»
Je sentis un remous de colère au sein du vertige de bonheur.
« Bon Dieu, aînée, tu aurais dû m'avertir pour le déficit de temps. »
Et peut-être me parler du distance qui donnait sur un monde sans rivière ni sol solide. J'aurais pu mourir. Aînée acquiesça d'un hochement de tête.
Mais je n'en étais pas sûr, Roll. Il n'y avait pas de certitude, seulement les probabilités habituelles. C'est pour cela que Abétic et moi avons intégré une paravoile au kayak.
Elle sourit de nouveau.
Je suppose qu'elle s'est révélée efficace.
Mais tu savais que ce serait une longue séparation. Des années pour toi. Je ne dis pas cela sur un ton interrogatif.
Oui.
J'allais répliquer, je sentis la colère disparaître aussi vite qu'elle avait surgi, et la pris par les bras.
C'est bon de te revoir, ma grande.
Elle m'étreignit de nouveau, et m'embrassa sur la joue cette fois, comme lorsqu'elle était enfant, et qu'une de mes plaisanteries ou de mes remarques la ravissait.
Viens, dit-elle. L'équipe de l'après-midi cesse le travail. Je vais te montrer notre plateforme et te présenter à certaines personnes.
Notre plateforme ? Je la suivis tandis qu'elle descendait les échelles, traversait des ponts que je n'avais pas remarqués pendant que je marchais en compagnie de Rachel.
Tout s'est bien passé pour toi, aînée ?
Je veux dire, tout va bien ?
Oui.
Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et me sourit de nouveau.
Tout va bien, Roll.
Nous traversâmes une terrasse le long de la plus élevée des trois pagodes, empilées l'une au-dessus de l'autre. Je sentis le plancher frémir un peu, et quand nous posâmes le pied sur l'étroite plateforme entre les pagodes, toute la structure vibra. je remarquai que des gens sortaient de la pagode située le plus à l'ouest et suivaient les 3 sentiers de corniche le long de l'escarpement.
Cette partie-là semble branlante, mais elle est suffisamment solide,
dit Aîné en remarquant mon appréhension.
On affichait des poutres en pin bonsaï le plus dur dans les trous forés dans le roc. Ça soutient toute l'infrastructure.
Elles doivent finir par pourrir, dis-je en la suivant sur le petit pont suspendu. Nous nous balancions dans le vent.
Oui. On les a remplacées plusieurs fois depuis 800 ans que le temple est ici. Personne ne sait exactement combien de fois. Leurs archives sont encore plus branlantes que les planchers.
Et longtemps embauché pour ajouter d'autres constructions. Nous étions arrivés sur une terrasse de bois à la couleur vineuse. Tout au bout, une échelle s'élevait jusqu'à une autre plateforme et un pont très étroit partait de cette dernière.
Oui. Je suis à la fois architecte et maître d'œuvre. Quand je suis arrivé, j'ai supervisé la construction d'un temple taoïste près de Potala. Alors le Dalai Lama a pensé que je pourrais terminer les travaux du temple suspendu dans les airs. Son état frustrait quelques soi-disant rénovateurs depuis ces dernières décennies.
« Quand tu es arrivé, » répétai-je. Nous étions alors sur une plateforme élevée, au centre de la structure. Elle était entourée de balustrades joliment sculptées et 2 petites pagodes y semblaient perchées tout au bord. Aîné s'arrêta à la porte de la première.
« Un temple ?» demandai-je.
« Ma maison. »
Elle sourit d'une oreille à l'autre en me montrant l'intérieur. Je regardais. La pièce carrée ne faisait que 3 mètres sur 3, et il n'y avait que 2 petits tatamis sur le plancher de bois ciré. Ce qui me frappa le plus, ce fut le mur du fond, qui simplement n'existait pas. On avait fait coulisser les cloisons shoji, et l'extrémité de la pièce s'ouvrait sur le vide. Si l'on était somnambule, on pouvait tomber dans l'oubli. La brise qui remontait l'escarpement faisait bruire les feuilles de 3 branches de saule disposées dans un beau vase jaune moutarde sur une petite estrade de bois contre le mur ouest. C'était le seul ornement de la pièce.
Nous ne gardons pas nos souliers à l'intérieur, sauf dans les couloirs de transit que tu viens de traverser.
Aîné me conduisit à l'autre pagode, presque identique à la première, sauf que les shoji étaient fermés et qu'à côté, il y avait un futon par terre.
Les affaires de Abétique,
dit-elle en montrant du doigt une petite armoire peinte en rouge, à côté du futon.
C'est là que nous t'avons installé. Entre.
Elle ôta ses bottes, s'approcha du tatami, fit coulisser un shoji et s'assit en tailleur sur le tapis. J'enlevai mes bottes, posai mon sac contre le mur sud et allai m'installer à côté d'elle.
Eh bien,
dit Aîné en me saisissant de nouveau par les avant-bras.
Mince alors.
Pendant 1 minute, je restais incapable de parler. Je me demandais si c'était l'altitude ou l'atmosphère trop riche qui me rendait si émotif. Je me forçais à regarder les files de gens en tchouba aux brillantes couleurs quitter le temple et emprunter les étroites corniches et les ponts qui longeaient l'escarpement. Juste en face de notre porte ouverte se dressait le massif lumineux du R, dont les champs de glace rutilaient sous la lumière de l'après-midi.
« Mon Dieu, » dis-je doucement. « C'est beau ici, ma grande. »
« Oui. Et mortel si l'on ne fait pas attention. Demain, Abétique et moi, nous t'emmènerons sur l'escarpement et nous te recyclerons sur les techniques et le matériel de l'escalade. »«
Il vaudrait mieux un cours élémentaire. » Je ne pouvais cesser de contempler son visage, ses yeux. Je craignais, si je touchais de nouveau sa peau nue, qu'un voltage visible ne passe de l'un à l'autre. Je me souvenais du choc électrique que l'on ressentait en la touchant quand elle était enfant.
Je respirais à fond.
« Ok, » dis-je. « Quand tu es arrivé ici, le Dalai Lama t'a dit que tu travaillerais au temple. Alors quand es-tu arrivé? Et comment? Quand as-tu rencontré Rachel et Théo? Qui d'autre connais-tu bien ici? Qu'est-il arrivé après notre séparation à Hannibal? Que sont devenus les autres à Taliesin? Les troupes de la Pax t'ont-elles poursuivi? Où as-tu appris tous ces trucs d'architecture? Parles-tu toujours avec les lions, les tigres et les ours? Comment? »
Aîné leva la main. Elle riait.
Une chose à la fois, Rol. J'ai envie, moi aussi, que tu racontes ton voyage, tu sais.
J'ai rêvé que nous discutions ensemble. Tu m'as parlé de 4 étapes. D'apprendre le langage des morts, d'apprendre le langage des vivants,
termina-t-elle pour moi.
Ouais, j'ai rêvé cela aussi.
Je dus hausser les sourcils. Aîné sourit et posa les mains sur les miennes. Elles avaient grandi et enveloppèrent mon énorme poing. Je me souvins de l'époque où ses deux mains disparaissaient dans l'une des miennes.
Je me rappelle très bien ce rêve, Roll. Et j'ai rêvé aussi que tu souffrais, que tu avais mal au dos.
Un calcul rénal, dis-je en grimaçant.
Ouais. Si nous pouvons partager des rêves alors que nous sommes à des années-lumière l'un de l'autre, je suppose que cela prouve que nous sommes toujours amis.
Des années-lumière, répétai-je. Bon, comment les as-tu franchis, aîné? Comment es-tu arrivé ici? As-tu été ailleurs? Elle hocha la tête et se mit à parler. Le vent qui traversait la paroi mobile ouverte agitait ses cheveux. Pendant son récit, la lumière vespérale devint plus intense et plus brillante sur la montagne au nord et sur l'escarpement à l'est et à l'ouest. Aînée fut la dernière à quitter Taliesin Ouest, mais 4 jours seulement après que je me fus embarqué sur le Mississippi. Les autres apprentis franchirent d'autres distances, dit-elle, et le vaisseau de descente utilisa le reste de son énergie pour les emmener aux différents portails, près du Golden Gate Bridge, au bord du Grand Canyon, au sommet des visages de pierre du Mont Rushmore, sous les poutrelles rouillées d'une des tours de lancement du parc historique du Spatioport Kennedy, tous situés sur l'hémisphère occidental de l'ancienne Terre, semblait-il. Celui que franchit aîné avait été intégré à la maison en adobe d'un pueblo, au nord de la cité vide appelée Santa Fe. Abétique s'était distranslaté avec elle. En entendant cela, je plissais les yeux de jalousie, mais ne dis rien. Son premier distrans l'amena dans un monde à forte gravité appelé Ixion. La Pax y était présente, mais avait concentré ses bases dans l'hémisphère opposé. Ixion ne s'était jamais vraiment remis de la chute, et le haut plateau où Aîné et Abétique émergèrent était un dédale de ruines envahies par la végétation, peuplé essentiellement de tribus, en guerre, de néo-marxistes et d'indiens vivant selon leur ancienne culture, dont le mélange explosif était en outre déstabilisé par des bandes nomades d'aérénistes renégats qui tentaient de recréer toutes les espèces répertoriées de dinosaures de l'ancienne Terre. Aîné rendit son récit amusant. Abétique avait dissimulé sa peau bleue, signe de sa nature androïde, sous les grands barbouillages de peinture faciale décorative qu'utilisaient les Indiens. Elle, une jeune fille de 16 ans, avait eu l'audace d'exiger un bon paiement, non en argent mais en nourriture et en fourrure, pour diriger la reconstruction des anciennes cités de Kambar, Illyumut et Maoville. Mais ça marcha. Non seulement Aîné reconçut et rebâtit ses 3 anciennes villes et d'innombrables petites maisons, mais elle inaugura une série de cercles de discussion qui attirèrent des auditeurs d'une 12aine de tribus en guerre. Là, Aîné devint circonspect, je le compris, mais je voulais savoir de quoi l'on parlait dans ces cercles de discussion.
« Juste des trucs, » répondit-elle. « Il proposait des sujets, je suggérais des choses sur lesquelles réfléchir et les gens parlaient. »«
Tu leur prodiguais un enseignement ?» demandai-je, pensant à la prophétie qui disait que l'enfant du cybride de John Keats serait celle qui enseigne.
« Au sens socratique du terme, je suppose. Qu'est-ce que... Oh, oui. »
Je me souvins du Platon qu'elle m'avait recommandé de lire dans la bibliothèque de Taliesin. Le maître de Platon, Socrate, enseignait en posant des questions, en soutirant de ses élèves des vérités qu'ils avaient déjà en eux. Cette technique m'avait paru, au mieux, très douteuse. Elle continua. Certains membres de son groupe de discussion devinrent de fervents auditeurs qui revenaient tous les soirs et la suivaient quand elle se déplaçait d'une cité en ruine à l'autre sur Ixion.
Tu veux dire des disciples?
Aîné fronça les sourcils.
Je n'aime pas beaucoup ce mot, Roll.
Je croisais les bras et regardais la lueur alpine illuminer le sommet des nuages, plusieurs kilomètres en dessous, et la brillante lumière du soir enflammait le pic septentrional.
Tu ne l'aimes peut-être pas, mais à mon avis, c'est le terme exact, ma grande.
Les disciples suivent le maître s'il voyage pour essayer de glaner la moindre bribe de son enseignement.
Les étudiants suivent aussi leur professeur, dit Aîné.
D'accord, dis-je, ne voulant pas faire dérailler son récit en discutant.
« Continue. »
Il n'y avait pas beaucoup plus à dire sur Ixion. Elle et Abétik restèrent sur la planète pendant une année locale, 5 mois standard. La plupart des bâtiments étaient en blocs de pierre et leur style d'un classicisme antique, presque grec.
« Et la Pax, dis-je ?
Elle n'est jamais venue fouiner ?»
Certains missionnaires prenaient part aux discussions. L'un d'eux, un certain père Clifford, s'est lié d'amitié avec Abétik.
Ils ne vous ont pas dénoncé ? On devait toujours vous poursuivre, pourtant.
Je suis sûr que le père Clifford ne l'a pas fait. Mais pour finir, des soldats de la Pax nous ont cherchés dans l'hémisphère occidental où nous travaillons. Les tribus nous ont cachés pendant encore un mois. Le père Clifford assistait aux discussions du soir, même quand les glisseurs survolaient la jungle à notre recherche.
Que s'est-il passé ? Je me sentais comme un enfant de 2 ans qui pose des questions juste pour que l'autre personne continue à parler. Cette séparation n'avait duré pour moi que quelques mois, y compris le sommeil froid hanté par les rêves, mais j'avais oublié combien j'aimais le son de la voix de ma jeune amie.
Rien, en fait. J'ai terminé mon dernier travail, la restauration d'un vieil amphithéâtre consacré, d'une manière assez appropriée, à des spectacles de théâtre et des réunions communales, et Abétik et moi, nous sommes partis. Certains des étudiants ont fait de même.
Je plissais les yeux.
Avec toi ?
Rachel m'avait dit qu'elle avait rencontré et né sur un monde appelé Amritsar et voyagé avec elle jusqu'ici. Peut-être Théo venait-elle d'Ixion.
Non, personne n'est parti d'Ixion avec moi,
poursuivit doucement Aîné.
Ils devaient se rendre ailleurs. Ils avaient des choses à enseigner à d'autres.
Je la regardai un moment. Tu veux dire que les lions, les tigres et les ours ont permis à d'autres de se distransporter? Ou est-ce que tous les portails se sont ouverts?
Non,
répondit Aîné, mais à quelle question je n'en savais rien.
Non, les distrans sont toujours aussi morts. C'est juste quelques cas spéciaux.
De nouveau, je n'insistais pas. Elle reprit son récit. Après Ixion, elle se rendit sur Alliance Maui.
La planète de Ciri ?
M'exclamai-je en me remémorant la voix de grande âme en train de m'enseigner les cantos d'Hyperion. C'était le lieu d'un des contes des pèlerins. Aîné hocha la tête et continua. Alliance Maui, malmenée par la révolution et les assauts de l'hégémonie durant le Retz, s'était remise durant l'interrègne de la chute, puis fut recolonisée pendant l'expansion de la Pax, sans participation des indigènes qui, fidèles à Ciri, résistèrent sur leurs îles mobiles avec leurs compagnons les dauphins, jusqu'à ce que la flotte et les gardes suisses les écrasent. Alliance Maui fut christianisée à outrance, et les habitants d'un grand continent, l'archipel équatorial, et des milliers d'îles mobiles migrantes furent envoyés dans des académies chrétiennes pour y être rééduqués. Mais Aîné et Abétik s'installèrent sur une île mobile qui appartenait encore aux rebelles, des néo-païens appelés Ciristes, qui voguaient la nuit à la voile, dérivaient entre les archipels d'îles inhabitées durant la journée et combattaient la Pax chaque fois que l'occasion s'en présentait.
« Qui as-tu construit ? » demandai-je.
Je croyais me souvenir que, d'après les cantos, les îles mobiles portaient peu de choses, sauf des maisons-arbres sous leurs arbres-voiles.
« Des maisons-arbres, » répondit Aîné avec un large sourire. « Des tas de maisons-arbres. Et aussi quelques dômes sous-marins. C'est là que les païens passent la plus grande partie de leur temps. »
« Alors tu as dessiné des maisons-arbres ?» Elle fit non de la tête.
« Tu blagues ou quoi ? Ces gens sont, après les Templiers disparus du Bosquet de Dieu, les meilleurs bâtisseurs de maisons-arbres de l'espace humain. J'ai étudié la construction des maisons-arbres. Ils ont été assez aimables pour me laisser avec Abétik les aider. »
« Du travail d'esclave. »
« Exactement. »
Elle ne passa que 3 mois standard sur Alliance Maui. C'est là qu'elle fit la connaissance de Théo Bernard.
« Une rebelle païenne ? » demandai-je. « Une fugitive chrétienne, » corrigea Aîné. Elle était arrivée là en tant que colon, puis elle a fui ses compagnons et rejoint les Ciristes.
Je fronçais les sourcils sans m'en rendre compte. « Elle porte un cruciforme ? » Les chrétiens régénérés me mettaient toujours les nerfs en boule.
« Plus maintenant. »
« Mais Comment ? Je ne connaissais aucun moyen pour un chrétien porteur de se débarrasser d'un cruciforme, en dehors du rite secret d'excommunication que seule l'Église pouvait accomplir.
« Je t'expliquerai plus tard, » dit Aîné.
Avant que son histoire se termine, elle utiliserait cette phrase plus d'une fois. Après Alliance Maui, Abétique, Théo Bernard et elle s'étaient distransportés sur Vecteur Renaissance.
« Vecteur Renaissance ? » m'écriai-je presque.
C'était une forteresse de la Pax. On avait failli nous abattre sur Vecteur Renaissance. C'était un monde hyper-industrialisé, couvert de cités, d'usines robots et de centres de la Pax. Aîné sourit. Cela n'avait pas été facile. Ils avaient dû déguiser Abétique en grand brûlé avec un masque de Saint-Auchère, qui s'était révélé bien inconfortable pour lui pendant les 6 mois qu'ils y demeurèrent.
Juste un seul boulot. Nous avons travaillé à l'édification de la nouvelle cathédrale Saint-Mathieu à Da Vinci.
Je la regardais fixement pendant 1 minute avant de pouvoir parler. Tu as travaillé à une cathédrale ? Une cathédrale de la Pax ? Une église chrétienne ?
Bien sûr,
répondit calmement Aîné.
J'ai œuvré avec les meilleurs maçons, charpentiers, maîtres verriers et artisans de la profession. J'ai d'abord été apprenti, mais avant que nous ne partions, j'étais devenue l'assistante du concepteur en chef travaillant à la nef.
Je ne pus que secouer la tête. Et as-tu tenu des cercles de discussion ?
Oui. Plus sur Vecteur Renaissance que sur aucun autre monde. J'avais des milliers d'étudiants vers la fin.
Je m'étonne qu'aucun ne t'ait trahi.
Je l'ai été. Mais pas par l'un des étudiants. Un verrier nous a dénoncé à la garnison locale de la Pax. Nous leur avons échappé de justesse, Abétique, Théo et moi.
Par distrance.
En nous distransportant, oui.
C'est seulement plus tard que je me rendis compte qu'elle avait eu un moment d'hésitation, retenu un mot. Et les autres sont partis avec toi ?
Pas avec moi, redit-elle. Mais des centaines se sont distranslatées ailleurs.
Où ? Demandai-je, perplexe. Aîné soupira.
Te souviens-tu de notre discussion, Roll ? Celle où je t'ai dit que la Pax pensait que j'étais un virus. Et qu'ils avaient raison.
Oui.
Eh bien, mes étudiants portent aussi le virus. Il y a des endroits où ils doivent se rendre. Ils ont des gens à contaminer.
Sa litanie de monde et de travaux s'allongea. Patofa pendant 3 mois, où elle mit en œuvre son expérience des maisons-arbres pour construire des demeures dans les branches et les troncs entrelacés qui poussaient dans les marécages sans fin de ce monde. Amritsar, où elle travailla 4 mois standard dans le désert à construire des tentes et des lieux de réunion pour les bandes nomades des Sikhs et des Soufis qui parcouraient les sables verts. C'est là que tu as rencontré Rachel, dis-je.
Exact.
Quel est son nom de famille ? Elle ne me l'a pas dit.
Elle ne me l'a jamais dit non plus,
répliqua Aîné qui poursuivit son récit. D'Amritsar, elle, Abétique et ses 2 amis se distransportèrent sur Groombridge Dyson Bay. L'hégémonie, qui n'avait pas réussi à terraformer cette planète, l'abandonna à ses glaciers d'ammoniac-méthane et ses ouragans de cristaux de glace. Les colons, de moins en moins nombreux, se réfugièrent dans les biodômes et les cabanes de construction orbitale. Mais ses habitants, en majorité des ingénieurs musulmans sunnites du projet d'amendement génétique transafricain qui échoua, refusèrent opiniâtrement de mourir durant la chute et finirent par terraformer Groombridge Dyson Bay en un monde toundra laplandique avec un air respirable, une faune et une flore de l'ancienne terre adaptées, y compris des mammouths laineux qui parcouraient les montagnes équatoriales. Les millions d'hectares d'herbage étaient parfaits pour les chevaux, animaux de l'ancienne terre disparus pendant les tribulations, avant que notre monde natal s'effondre sur lui-même. Aussi les génoconcepteurs fouillèrent-ils dans les réserves de leur premier vaisseau d'ensemencement et les élevèrent-ils par milliers, puis par dizaines de milliers. Des bandes nomades décidèrent de parcourir les prairies du continent méridional en vivant dans une sorte de symbiose avec les grandes hardes, tandis que les fermiers et les citadins s'installaient dans les contreforts élevés le long de l'équateur.
Il y avait là de féroces prédateurs, manipulés et relâchés durant les siècles d'expérimentation aérienniste autonome et accélérée, des meutes de charognards mutants et des terreurs nocturnes embusquées dans des terriers, des couleuvres de 30 mètres de long qui descendaient de celles de la mer des hautes herbes d'Hyperion, des tigres des rochers de Fuji, des loups intelligents et des grizzlies au QI supérieur. Les humains possédaient la technologie qui leur aurait permis, en moins d'un an, de chasser jusqu'à l'extinction ces tueurs adaptés, mais les habitants de cette planète choisirent une voie différente. Les nomades tentèrent leur chance, seul à seul avec les prédateurs, protégeant les grandes hardes aussi longtemps que l'herbe pousserait et que l'eau coulerait, tandis que les citadins entamaient l'édification d'un mur, un unique mur qui devait, à la fin, mesurer 5000 kilomètres de long et séparer les montagnes sauvages des savanes où paissaient les chevaux et des forêts de sika qui s'étendaient au sud. Le mur serait plus qu'un mur. Il deviendrait la grande cité linéaire de Groombridge-Dyson-Day, s'élevant à 30 mètres dans ses parties les plus basses, pourvue de remparts où resplendiraient mosquées et minarets, surmontée d'une route assez large pour que trois chariots puissent se croiser sans frotter leurs roues les unes contre les autres. Les colons étaient trop peu nombreux et trop occupés à d'autres projets pour travailler à temps complet à une telle muraille, mais ils programmèrent des robots et décantèrent des androïdes emmagasinés dans les chambres fortes de leurs vaisseaux d'ensemencement pour qu'ils effectuent ce labeur. Aîné et ses amis prirent part à ce projet et travaillèrent 6 mois standards pendant lesquels le mur prit forme et commença sa progression implacable à la base des montagnes et au bord des prairies.
Abétik y a retrouvé 2 de ses frères et sœurs, dit Aîné d'une voix douce. Mon Dieu, murmurai-je. J'avais presque oublié.
Quand nous étions sur Sol Draconiseptem, quelques années auparavant, assis près d'un cube chauffant dans le bureau tapissé de livres du père Glaucus, à l'intérieur d'un gratte-ciel glacial, intégré à l'éternel glacier de l'atmosphère gelée de ce monde, Abétik avait parlé de l'une des raisons pour lesquelles il participait à cette odyssée avec l'enfant aîné et moi. Il espérait, contre toute logique, retrouver ses 3 frères et sa sœur. On les avait séparés pendant leur enfance, peu après la période d'apprentissage, si les premières années accélérées d'un androïde pouvaient être qualifiées d'enfance.
Alors, il les a retrouvés ? Dis-je émerveillé. 2 d'entre eux, répéta aîné. L'un des autres mâles de sa crèche de naissance, à Antibes, et sa sœur, à Daria. Il lui ressemble ?
Le vieux poète était servi par des androïdes, dans sa cité vide d'Endymion, mais je n'avais pas fait très attention à eux, en dehors d'Abétik. Beaucoup trop de choses étaient arrivées trop vite.
Énormément. Mais ils sont très différents aussi. Peut-être t'en dira-t-il plus.
Elle conclut son histoire. Après avoir travaillé 6 mois standard au mur cité linéaire de Groombridge-Dyson-Day, ils avaient été obligés de s'en aller.
Obligés de partir ?
La Pax ?
La Commission Justice et Paix, pour être précis. Nous ne désirions pas partir, mais nous n'avions pas le choix.
Qu'est-ce que c'est la Commission Justice et Paix ? Demandai-je. La manière dont elle avait prononcé ces mots avait hérissé les poils de mes bras.
Je t'expliquerai plus tard.
Bon. Mais explique-moi autre chose alors. Aîné hocha la tête et attendit. Tu dis que tu as passé 5 mois standard sur Ixion, 3 mois sur Alliance Maui, 6 mois sur Vecteur Renaissance, 3 mois sur Patofa, 4 mois standard sur Amritsar et environ 6 mois standard sur, comment déjà? Groombridge-Dyson-Day? Aîné acquiesça. Et tu es ici depuis une année standard, n'est-ce pas?
Oui.
Cela fait seulement 39 mois standard. 3 années et 3 mois standard. Elle attendit. Les coins de sa bouche se contractèrent un peu, mais je m'aperçus qu'elle n'allait pas sourire. Elle s'efforçait plutôt de ne pas pleurer, semblait-il. Pour finir, elle dit
« Tu as toujours été bon en calcul, Roll. »
Mon voyage a accumulé 5 ans de déficit de temps, dis-je doucement. Cela fait pour toi environ 60 mois standard, mais tu m'en as seulement présenté 39. Où sont les 21 mois standards qui manquent, ma grande ? Je vis des larmes dans ses yeux. Sa bouche tremblait légèrement, mais elle essaya de parler d'un ton léger.
Pour moi, cela a fait 62 mois standards, une semaine et 6 jours. 5 ans, 2 mois et 1 jour de déficit de temps à bord du vaisseau, environ 4 jours d'accélération et de décélération, et 8 jours de temps de voyage. Tu as oublié ton propre temps de voyage.
D'accord, ma grande, dis-je en voyant l'émotion qui l'étreignait. Ses mains tremblaient. Tu veux bien me parler des... Combien ça fait ?
23 mois, 1 semaine et 6 heures.
Presque 2 ans standard, pensais-je. Et elle n'a pas envie de me raconter ce qui lui est arrivé durant ce temps. Je ne l'avais jamais vue exercer un contrôle aussi excessif sur elle-même. Elle avait l'air de lutter physiquement contre une terrible force centrifuge.
Nous en reparlerons plus tard,
dit-elle, montrant par la porte ouverte l'escarpement à l'ouest du temple.
Regarde.
Je distinguais seulement 2 silhouettes, une à 2 jambes et l'autre à 4 pattes sur l'étroite corniche. Elles étaient encore à plusieurs kilomètres. Je me levai pour aller prendre mes jumelles dans mon sac et je les étudiais.
Les animaux de trait sont des ichèvres,
dit Aîné.
Les porteurs sont loués au marché de Farie et reviendront dans la matinée. Tu ne vois pas quelqu'un de familier ?
Mais si. Le visage bleu sous le capuchon de la Tchouba n'avait pas changé depuis 5 ans. Je me retournai vers Aînée, mais elle ne voulait visiblement pas parler de ces 2 années manquantes. Une fois encore, je lui permis de changer de sujet. Aînée se mit à me questionner et nous étions encore en train de parler lorsque Abétik arriva. Les 2 femmes, Rachel et Théo, entrèrent sans se presser quelques minutes plus tard. L'un des tatamis, une fois replié, révéla l'existence d'un foyer de cuisson dans le sol, près du mur ouvert. Aînée et Abétik commencèrent à faire la cuisine pour nous tous. D'autres arrivèrent et me furent présentés. Les contremaîtres Georges Tsarong et Jigmé Norbu, 2 sœurs chargées de la décoration des garde-fous et balustrades, Koukou et Kaïsé, Gyalo Tondup en robe de soie protocolaire et Jigmé Taring en tenue de soldat, le moine étudiant Chimdin et son maître, Kemponga Wang Tashi, le père supérieur du Gompa du temple suspendu dans les airs, une moniale appelée Donka Nyapso, un voyageur de commerce nommé Tromo Trochi de Domu, Tsipon Shakabba, qui était le contremaître du Dalai Lama, ici au temple, et le célèbre alpiniste et volant Lomo Dondrub, l'homme le plus frappant que j'ai jamais vu, et je le découvris plus tard, l'un des rares pilotes de paraglisseurs qui buvait de la bière et rompait le pain avec des dugpa, des drukpa ou des drungpa. Nous avons mangé du tsampa et du momo, de l'orge grillée mixée dans du thé au beurre de zichèvre pour former une pâte que l'on roulait en boulettes et que l'on dégustait avec d'autres boulettes de pâte cuites à la vapeur, contenant des champignons, de la langue de zichèvre froide, qui rappelait le bacon, et des petits morceaux de poire qui, me dit Abétik, provenaient des jardins légendaires de Si Wang Mu. D'autres personnages arrivèrent au moment où l'on distribuait les bols. L'Absang Samtem, qui, comme Abétik me le chuchota, était le frère aîné du Dalai Lama actuel et résidait depuis 3 ans à la lamasserie du temple, et différents drungpa, des fissures boisées, y compris le maître charpentier Changchi Kengchung avec ses longues moustaches cirées, Peri Samdup, un interprète, et Rimsi Kyepup, un jeune monteur d'échafaudage songeur et malheureux. Tous les moines qui passèrent ce soir-là ne descendaient pas des colons du vaisseau d'ensemencement chinois-tibétain de l'ancienne terre. Riant avec nous et levant leur grossière chope de bière, il y avait les monteurs sans peur Haruyuki Otaki et Kenshiro Endo, les maîtres du bambou Wojtek Majer et Janus Kurtika, et les briquetiers Kim Byun-sun et Vicky Grosselj. Le maire de Jokung, la cité la plus proche, était là. Charles Chikyap Kempo servait aussi de grand chambellan à tous les chefs des prêtres du temple et était à la fois membre appointé du Tsongdu, l'assemblée régionale des aînés, et conseiller au Yikchang, littéralement le nid des lettres, corporation secrète de 4 personnes qui surveillait les progrès des moines et nommait tous les prêtres. Charles Chikyap Kempo fut le premier de notre assemblée à boire suffisamment pour tomber ivre-mort. Chim Din et plusieurs autres moines tirèrent l'homme ronflant loin du bord de la plateforme et le laissèrent dormir dans un coin. Il en arriva d'autres. Une quarantaine de personnes remplissaient la petite pagode quand les derniers rayons du soleil déclinèrent et que la lumière lunaire de l'oracle et de trois de ses compagnes éclairait les sommets des nuages. Mais j'oubliais leurs noms ce soir-là, tandis que nous mangions du tsampa et du momo, buvions de la bière en grande quantité et illuminions Swan Kung Tsu de nos torches brillantes. Quelques heures plus tard ce soir-là, je sortis pour uriner. Abétique me montra le chemin des toilettes. J'avais supposé qu'on se soulageait au bord des plateformes, mais il m'assura que sur un monde où les structures d'habitation comptent plusieurs niveaux, la plupart au-dessus ou en dessous des autres, c'était considéré comme mal élevé. Les toilettes étaient encastrées dans le versant de l'escarpement, entourées de cloisons de bambou, et les arrangements sanitaires consistaient en tuyaux et en vannes habilement machinées, menant à des fissures qui s'enfonçaient dans la montagne, ainsi qu'en des lavabos taillés dans des tables de pierre. Il y avait même une douche et de l'eau chauffée par le soleil. Quand je me fus rincé le visage et les mains et que je revins sur la plateforme, la brise glacée me dessoula un peu, je vis Abétique qui, au clair de lune, regardait l'intérieur de la pagode rutilante où la foule s'était rangée en cercle concentrique autour de ma jeune amie. Les rires et le désordre avaient disparu. Un par un, les moines, les saint-hommes, les monteurs, les charpentiers, les maçons, les abbés du Gompa, le maire et les briquetiers posaient des questions à la jeune femme et elle leur répondait. La scène me rappela quelque chose, une image récente, et il me suffit d'une minute pour m'en souvenir. Durant la décélération que nous dûmes entamer à 40 UA de ce système solaire, le vaisseau m'offrit des représentations holo du Soleil de type G avec ses 11 planètes, ses 2 ceintures d'astéroïdes et ses innombrables comètes en orbite. Aîné était sans aucun doute le Soleil de ce système, et tous les hommes et les femmes présents dans cette pièce tournaient autour d'elle aussi sûrement que les planètes, les astéroïdes et les comètes de la projection holo du vaisseau. Je m'appuyais au poteau de bambou et regardais Abétique au clair de lune. Elle devrait faire attention, dis-je doucement à l'androïde en m'efforçant de bien articuler chaque mot. Ou ils vont se mettre à la traiter comme un dieu. Abétique hocha imperceptiblement la tête. Ils ne pensent pas que Achéné est un dieu, Achandimion, murmura-t-il. Bon, je passai le bras autour des épaules de l'androïde. Bon. Cependant, beaucoup d'entre eux sont de plus en plus convaincus, en dépit de ses efforts pour les convaincre du contraire, qu'elle est Dieu. Chapitre 17. Le soir où Abétique et moi rapportons la nouvelle de l'arrivée de la Pax, Aîné quitte son groupe de discussion, vient nous rejoindre à la porte et nous écoute attentivement. Chim Din dit que le Dalai Lama leur a permis d'occuper le vieux Gompa du lac de la Loutre, à l'ombre du Shivling. Aîné ne répond rien. Je continue. Ils n'ont pas le droit de se servir de leur machine volante, mais sont libres d'aller partout dans la province. Partout. Aîné hoche la tête. Je voudrais la prendre par les épaules et la secouer. Ça signifie qu'ils entendront bientôt parler de toi, ma grande, dis-je sèchement. Les missionnaires seront ici dans quelques semaines, peut-être quelques jours, pour épier tout ce qui se passe et envoyer leur rapport à l'enclave de la Pax. Je pousse un soupir. Merde alors, on aura de la chance si ce sont seulement des missionnaires et pas des soldats. Aîné reste silencieuse pendant une autre minute. Puis elle dit. Nous avons déjà de la chance que ce ne soit pas la commission Justice et Paix. Qu'est-ce que c'est? Elle en a déjà parlé avant. Elle fait non de la tête. Ça n'entre pas en ligne de compte pour le moment. Ils ont sûrement autre chose à faire ici que d'enrayer l'hérésie.
Durant mes premiers jours ici, Aîné m'a parlé des combats qui se déroulent dans l'espace de la Pax et autour.
une révolte palestinienne sur Mars, provoquant l'évacuation de la planète par la Pax qui restait en orbite, la soumise à un bombardement atomique, des rébellions de libres négociants dans les territoires de l'anneau de Lambert et sur Mare Infinitus, une lutte armée incessante sur Ixion et des douzaines d'autres mondes. Vector Renaissance, avec ses immenses bases de la flotte, ses innombrables bars et bordels, est devenu un nid de guêpes de rumeurs et d'espionnage interne. Et comme dans la flotte de la Pax, la plupart des vaisseaux sont maintenant des archanges à propulsion Gédéon, les nouvelles datent, en général, de quelques jours seulement. L'une des rumeurs les plus fascinantes recueillies par René avant son arrivée à Tien Shan était que l'un des vaisseaux de classe archange s'était mutiné, puis enfui dans l'espace extro, et se translatait maintenant comme l'éclair dans l'espace de la Pax pour attaquer des convois du Mercantilus, immobilisant sans les détruire les cargos pourvus d'un équipage, et pour perturber les corps expéditionnaires de la flotte qui se prépare à attaquer les extros au-delà du Grand Mur. La rumeur courait, pendant les dernières semaines qu'Ainé et Abétic passèrent sur Vector Renaissance, que les bases de la Pax étaient en danger. D'autres bruits laissaient croire que beaucoup d'éléments de la flotte étaient maintenant postés dans le système de Passem afin de défendre le Vatican. Quelle que fût la part de vérité dans cette histoire de mutinerie du Raphaël, il était incontestable que la croisade de sa sainteté contre les extros avait été retardée de plusieurs années par des attaques éclairs. Mais rien de tout cela ne me semblait important maintenant que j'attendais de voir comment Ainé allait réagir à cette nouvelle de l'arrivée de la Pax sur Tien Shan. Allions-nous nous distranslater sur son prochain monde ? Me demandai-je. Au lieu de fuir la discussion, Ainé dit
« Le Dalai Lama va être obligé d'accueillir officiellement les représentants de la Pax. »
Et alors ?
Il va falloir se débrouiller pour se faire inviter à cette cérémonie.
Je doute que ma mâchoire pende réellement, mais c'est l'impression qu'elle me donne. Ainé me pose la main sur l'épaule.
Je vais m'en occuper. J'en parlerai à Charles Chikyap Kempo et à Kempo Ngawang Tashi pour m'assurer que nous sommes bien sur la liste des invités.
Je reste littéralement sans voix tandis qu'elle retourne à son groupe de discussion et à la foule silencieuse dont les visages placides l'attendent à la douce lumière des lanternes. Je lis ces mots sur le micro-vélin. Je me souviens de les avoir écrits durant mes derniers jours passés dans la boîte à chat de Schrödinger, en orbite autour d'Armagast. Je me souviens de les avoir écrits dans la hâte, certain que les lois de la probabilité et de la mécanique quantique libéreraient bientôt le cyanure dans mon univers en circuit fermé. Et je m'étonne d'avoir employé le présent de narration. Puis je me souviens de la raison de ce choix. Quand je fus condamné à mourir dans le casier de Schrödinger, un ovoïde en fait, on m'a permis d'emporter très peu d'effets personnels dans cet ultime exil. Les vêtements, c'étaient les miens. Par je ne sais quel caprice, on avait mis un petit tapis sur le plancher de ma cellule, une vieille carpette qui faisait un peu moins de 2 mètres de long et 1 de large, effrangée, dont un petit morceau manquait à une extrémité. C'était une copie du tapis Hawking du consul. J'avais perdu le vrai sur Mare Infinitus des années auparavant. Comment je l'ai récupéré ? Cela prendra place plus tard dans mon récit. J'avais donné le vrai Hawking à Abétic, mais cela a dû amuser mes bourreaux de meubler ma dernière cellule de cette copie inutilisable d'un tapis volant. Alors, on m'a accordé mes vêtements, le faux tapis Hawking et le journal disque, grand comme ma paume, que j'avais emporté du vaisseau sur Tien Shan. L'élément unité comme du journal avait été mis hors service, non qu'il puisse transmettre au travers de la coquille d'énergie du casier de Schrödinger ou qu'il y ait encore quelqu'un que je puisse appeler. Mais après avoir étudié attentivement sa mémoire lors de mon procès par l'Inquisition, il l'avait laissé intact. C'est sur Tien Shan que j'ai commencé à prendre des notes et à écrire chaque jour dans ce journal. Ce sont ces notes que j'ai mises à jour sur l'écran du scripteur de la boîte à chat de Schrödinger, les révisant avant de rédiger ces passages les plus personnels, et c'est, je crois, le caractère d'urgence dont sont imprégnées ces notes qui m'a poussé à utiliser le présent narratif. Tous mes souvenirs d'Ainé sont précis et vifs, mais certains d'entre eux, rappelés par ces entrées hâtives notées à la fin d'une longue journée de travail ou d'une aventure sur Tien Shan, étaient assez vivants pour que je me mette à pleurer cette perte ainsi renouvelée.
je les ai revécus ces moments en écrivant ces mots. Certains groupes de discussion d'aînés furent enregistrés textuellement sur le journal disque. Je les ai repassés durant mes derniers jours, juste pour entendre une fois de plus sa douce voix.
« Parlez-nous du technocentre, » demande l'un des moines durant l'heure de discussion qui a lieu le soir de l'arrivée de la Pax. « Je vous en prie, parlez-nous du centre. »
Aîné n'hésite qu'un instant, incline légèrement la tête comme pour mettre de l'ordre dans ses pensées.
« Jadis, » elle commençait toujours ainsi ses longues explications. « Jadis, il y a plus de 1000 années standard avant l'Égir, avant la grande erreur de 08, les seules intelligences autonomes que nous, les humains, connaissions, c'était nous-mêmes. Nous pensions alors que si l'humanité inventait un jour une autre intelligence, ce serait le résultat d'un immense programme. D'une grande masse de silicium et d'amplification ancienne, s'éteignant et s'allumant, d'appareils de détection appelés transistors, de puces et de cartes. Une machine avec plein de circuits de gestion en réseau qui, en d'autres mots, singerait, si vous voulez bien me pardonner l'expression, la forme et la fonction du cerveau humain. Bien sûr, les IA n'ont pas évolué de cette façon. Elles sont, pour ainsi dire, nées pendant que nous, les humains, regardions ailleurs. Il faut maintenant que vous imaginiez l'ancienne Terre, avant que l'humanité ait implanté des colonies sur d'autres mondes. Pas de propulsion Hawking, pas de vol interplanétaire pour ainsi dire. Tous nos œufs étaient littéralement dans le même panier. Et ce panier était une belle planète blanc et bleu, la Terre. À la fin du XXe siècle de l'ère chrétienne, ce petit monde possédait une infosphère rudimentaire. Les télécommunications planétaires du début s'étaient transformées en un essaim décentralisé de vieux ordinateurs à base de silicium, n'exigeant aucune organisation, aucune hiérarchie, rien de plus qu'une procédure commune de communication. La création d'un esprit ruche à la mémoire distribuée était alors inévitable. Les tout premiers ancêtres, en ligne directe, des personnalités qui composent le centre d'aujourd'hui, n'étaient pas le produit de programmes de création d'intelligence artificielle, mais d'efforts faits pour simuler une vie artificielle. Dans les années 1940, l'arrière-grand-père du technocentre, un mathématicien appelé John von Neumann, prouva que l'autoreproduction artificielle était possible. Dès que les premiers ordinateurs à base de silicium devinrent assez petits pour que des individus jouent avec, des amateurs curieux commencèrent à pratiquer la biologie synthétique dans les confins des circuits UCT de ces machines. L'hypervie, qui emmagasine de l'information, interagit, métabolise, évolue et s'auto-reproduit, naquit pendant les années 1960. Dans la dernière décennie du siècle, elle échappa aux poules grandissant de machines individuelles en se réfugiant dans l'infosphère planétaire à l'état embryonnaire qu'on appelait l'Internet ou le Web. Les premières IA étaient complètement stupides. Aussi stupides que le fut la première vie cellulaire de la soupe originale. Certaines des toutes premières hyperbestioles qui flottaient dans le milieu tiède de l'infosphère, lui aussi en pleine évolution, étaient des organismes de 80 octets, insérés dans le bloc de mémoire à accès direct d'un ordinateur virtuel, un ordinateur simulé par un ordinateur. L'un des premiers humains qui lâchèrent ces créatures dans l'océan de l'infosphère s'appelait Tom Ray, et ce n'était pas un expert en intelligence artificielle, ni un programmeur, ni un cyberpunk, qu'on appelait alors des pirates, mais un biologiste, un botaniste qui collectionnait les insectes et observait les oiseaux. Quelqu'un qui avait passé des années à collecter des fourmis dans la jungle pour un savant pré-égyrien appelé E.O. Wilson. À force de regarder les fourmis, Tom Ray en vint à s'intéresser à l'évolution et se dit qu'il pourrait peut-être non pas se contenter de simuler l'évolution dans l'un des premiers ordinateurs, mais y créer une véritable évolution. Aucun des cyberpunks auxquels il en parla ne s'intéressa à l'idée. Aussi apprit-il tout seul la programmation.
Les dingues d'informatique disaient que dans les ordinateurs, des séquences de code évoluaient et mutaient souvent. On appelait ça des bugs, et ils bousillaient les programmes. Les cyberpunks disaient que si les séquences de code évoluaient, elles ne seraient certainement pas fonctionnelles ni viables, comme la plupart des mutations d'ailleurs, et ficheraient en l'air le logiciel. Aussi, Tom Ray se contenta-t-il d'imaginer un ordinateur virtuel, une simulation d'ordinateur, dans son vrai ordinateur. Puis, il y créa un véritable code séquence de 80 octets qui pouvait se reproduire, mourir et évoluer au sein de son ordinateur dans l'ordinateur. Le 80 octets se copia en créant d'autres 80 octets. Ces cellules de proto-IA de 80 octets auraient rapidement rempli leur univers virtuel, comme l'écume dans la mare d'un Élysée de la mer primordiale, mais Tom Ray appliqua sur chaque 80 octets une balise temporelle. En d'autres mots, il leur attribua un âge et programma un bourreau qu'il appela la faucheuse. La faucheuse se promenait dans l'univers virtuel et moissonnait les vieux 80 octets et les mutants non viables. Mais l'évolution, comme elle a coutume de le faire, essaya d'être plus maligne que la faucheuse. Une créature mutante de 79 octets non seulement se révéla viable, mais se reproduisit bientôt plus vite que les 80 octets et les devança. Les hypervies, ancêtres des IA de notre centre, venaient à peine de naître et déjà, elles optimisaient leur génome. Bientôt, un organisme de 45 octets évolua et faillit éliminer les premières formes de vie artificielle. Tom Ray, étant leur créateur, trouva cela bizarre. Les 45 octets n'incluaient pas assez de code pour pouvoir se reproduire. Pis encore, les 45 mouraient lorsque les 80 disparaissaient. Il fit l'autopsie d'une de ces créatures de 45 octets. Il se révéla que tous les 45 octets étaient des parasites. Ils empruntaient aux 80 le code reproductif dont ils avaient besoin pour se copier. Les bestioles de 79 octets étaient immunisées contre le parasite 45. Mais tandis que les 80 et les 45 allaient inéluctablement vers l'extinction, dans leur vie spirale coévolutionnaire descendante, un mutant des 45 apparut. C'était un parasite de 51 octets et il pouvait se nourrir des 79 pleins de vie. Et cela continua ainsi. Je mentionne tout cela parce qu'il est important de comprendre que dès la première apparition de la vie, intelligence artificielle créée par l'homme, cette vie se révéla parasitaire. Elle était plus que parasitaire, elle était hyper-parasitaire. Chaque nouvelle mutation produisait des parasites qui pouvaient se nourrir des parasites précédents. En quelques milliards de générations, c'est-à-dire de cycles du CT, cette vie artificielle était devenue hyper-hyper-hyper parasitaire. Au bout de quelques mois de création d'hypervie, Tom Ray découvrit que des créatures de 22 octets prospéraient dans son milieu virtuel. Des créatures si efficaces algorithmiquement que les programmeurs humains mis au défi par Tom Ray de le faire ne purent rien créer de plus proche qu'une version de 31 octets. En quelques mois seulement après leur création, les créatures d'hypervie avaient acquis une efficacité que leur créateur ne pouvait égaler. Au début du XXIe siècle, une biosphère florissante de vie artificielle prospérait sur l'ancienne Terre, à la fois dans l'infosphère en évolution rapide et dans la macrosphère de la vie humaine. Bien que l'on commençât à peine à explorer les découvertes de la gestion informatique de l'ADN, des mémoires à bulles, du traitement parallèle des fronts d'ondes stationnaires et de la gestion d'hyper-réseaux, les concepteurs humains avaient créé des entités à base de silicium d'une remarquable ingéniosité. Et ils les avaient créées par milliards. Les micropuces étaient partout, des fauteuils de bureau aux boîtes de haricots sur les étagères des magasins, des automobiles aux parties artificielles du corps humain. Les machines devinrent de plus en plus miniaturisées, jusqu'à ce que la maison de l'être humain moyen et son bureau soient pleins de dizaines de milliers d'entre elles. Le fauteuil d'une secrétaire la reconnaissait dès qu'elle s'asseyait, appelait le dossier auquel elle travaillait sur son grossier ordinateur à silicium, bavardait avec une autre puce dans une machine à café pour qu'on lui en prépare une tasse, permettait à la grille des télécommunications de traiter les appels, les télécopies et les arrivées d'un courrier électronique rudimentaire afin que la secrétaire ne soit pas dérangée, communiquait avec l'ordinateur de la maison ou du bureau afin que la température reste optimale, etc. Dans les supermarchés, les micropuces des boîtes de haricots rangées sur les étagères notaient leur prix et ses changements, commandaient d'autres boîtes quand elles commençaient à manquer, surveillaient les habitudes d'achat des consommateurs et communiquaient avec le magasin et les autres produits. Ce réseau d'interaction devint aussi complexe et débordant d'activités que les bulles et l'écume de la soupe organique des océans primordiaux de l'ancienne Terre. En 40 années de monocellulaire de 80 octets créé par Tom Ray, les humains s'accoutumèrent à parler et à communiquer autrement avec les innombrables formes de vie artificielle dans leurs autos, leurs bureaux, leurs ascenseurs, même dans leurs corps, car les moniteurs et les proto-shunters médicaux évoluèrent vers une véritable nanotechnologie. Durant cette période, le technocentre devint un être autonome. L'humanité avait compris, et il s'avéra qu'elle ne se trompait pas, qu'une vie intelligente artificielle devait être autonome pour pouvoir fonctionner. Elle devait évoluer et se diversifier autant que la vie organique l'avait fait sur la planète. C'est ainsi que les choses se passèrent. Tout comme la biosphère entourant la planète, l'hypervie enveloppait maintenant le monde dans une infosphère vivante. Le centre évolua en tant qu'entité abstraite, non seulement dans le flot d'informations de l'infosphère d'Internet, mais aussi dans les interactions d'un milliard de minuscules micromachines autonomes gérées par des puces qui exécutaient leurs tâches banales dans le macromonde humain. L'humanité et l'entité du centre aux milliards de facettes en évolution devinrent bientôt aussi symbiotiques que les acacias et les fourmis maraudeuses qui protègent, émondent et font se reproduire ces plantes qui constituent leur unique source de nourriture. On appelle cela la coévolution, et les humains entendent ce concept à un niveau vraiment cellulaire, puisqu'une grande partie de la vie organique sur l'ancienne Terre avait été créée et optimisée par une danse coévolutionnaire réciproque. Mais là où les êtres humains envisageaient une symbiose confortable, les premières entités d'IA ne virent, n'étaient capables de voir, que de nouvelles chances de parasitisme. Les ordinateurs, on pouvait les éteindre. Les programmes de logiciels, on pouvait les effacer. Mais l'esprit ruche du protocentre avait déjà emménagé dans l'infosphère en train d'émerger, et seule une catastrophe planétaire pouvait y mettre fin. Cette catastrophe, c'est le centre qui finit par la fournir, et ce fut la grande erreur de 08. Mais il ne la commit pas avant d'avoir diversifié son propre milieu et dépassé la simple échelle planétaire. Les premières expérimentations de la propulsion Hawking, comprises et conduites uniquement par des éléments avancés du centre, révélèrent l'existence de la réalité de l'espace de Planck sous-jacent, l'espace qui lie. Les IA du centre de cette époque, à base d'ADN, de structures ondulatoires, commandées par des algorithmes génétiques, fonctionnant en parallèle, achevèrent la construction des premiers vaisseaux à propulsion Hawking et commencèrent à élaborer le réseau d'Istrans. Les êtres humains virent dans la propulsion Hawking une sorte de raccourci dans le temps et l'espace, la réalisation de leur vieux rêve d'hyperpropulsion. Ils se représentaient les portails d'Istrans comme des trous commodes découpés dans l'espace-temps. Telle fut la préconception humaine, corroborée par leurs propres modèles mathématiques et confirmée par les plus puissantes IA informatiques du centre. C'était un mensonge. L'espace de Planck, l'espace qui lit, est un milieu multidimensionnel qui possède sa propre réalité. Et comme le centre allait bientôt l'apprendre, sa propre topographie. La propulsion Hawking n'était pas, et n'est pas du tout, une propulsion au sens classique du terme, mais un mécanisme d'entrée qui effleure la topographie de l'espace de Planck juste assez longtemps pour changer de coordonnées dans le continuum espace-temps à quatre dimensions. Les portails distrans, d'autre part, permettent de pénétrer réellement dans le milieu de l'espace qui lie. Pour les humains, la réalité était évidente. On passe à travers un trou dans l'espace-temps, on sort instantanément ailleurs par un autre trou distrans. Mon oncle Martin avait une maison distrans, dont les pièces adjacentes se trouvaient dans des douzaines de mondes différents. Les distrans créèrent le réseau mondial de l'hégémonie. Une autre invention, le canal large, un moyen de communication plus rapide que la lumière, permit les communications instantanées entre les systèmes solaires. Toutes les conditions préalables à une société interstellaire étaient réunies. Mais le centre ne mit pas au point la propulsion Hawking, le distrans et le canal large pour le confort des humains. En fait, le centre ne mit jamais rien au point lorsqu'il s'en prit à l'espace qui lie. Le centre savait depuis le début que la propulsion Hawking n'était guère plus qu'une tentative ratée de pénétration dans l'espace de Planck. Piloter un aéronef par propulsion Hawking, c'était comme de faire avancer un vaisseau sur l'océan en déclenchant une série d'explosions à la poupe et en chevauchant les vagues. Grossièrement efficace, mais follement inefficace. Il savait qu'en dépit des apparences, en dépit du fait qu'il prétendait les avoir créés, il n'y avait pas des millions de portails distrans à l'apogée du Retz, seulement un. Tous les Terminex n'étaient en réalité qu'une unique porte d'entrée dans l'espace de Planck, manipulée à travers l'espace-temps pour donner une illusion de multiplicité. Si le centre avait tenté d'expliquer la vérité à l'humanité, il aurait pu utiliser l'analogie du faisceau lumineux d'une lampe de poche qui balaie rapidement une pièce fermée. Il n'y a pas plusieurs sources de lumière, mais une seule en transition rapide. Les IA ne se donnèrent jamais la peine d'expliquer cela. En fait, elles gardèrent le secret jusqu'à aujourd'hui. Et le centre comprit que la topographie du vide qui lie pouvait être modulée pour transmettre instantanément de l'information via le canal large. Mais que c'était une utilisation maladroite et destructive du milieu de l'espace de Planck, comme de communiquer d'un bout à l'autre d'un continent en provoquant artificiellement des tremblements de terre. Pourtant, il offrit ce service du canal large à l'humanité sans jamais le lui expliquer, parce que agir ainsi servait ses buts. Les IA avaient leur propre projet sur le milieu de l'espace de Planck. Dès ses premières expériences, le centre comprit que l'espace qui lie était le milieu parfait de leur propre existence. Les réseaux de leur infosphère ne dépendraient plus de la communication électromagnétique ou du faisceau étroit, ou même des émissions modulées de neutrinos. En installant les principaux éléments du centre dans l'espace qui lie, les IA pourraient se dissimuler en toute sécurité et échapper à leurs rivaux organiques, dans une cachette qui était à la fois nulle part et partout. Ce fut pendant cette migration des personas du centre, des infosphères humaines, dans la mégasphère de l'espace qui lie, que les IA découvrirent que l'espace de Planck n'était pas un univers vide. Derrière ces collines métadimensionnelles et au creux de ces arroyaux d'espace quantique repliés était tapis quelque chose de différent. Quelqu'un de différent. Des intelligences vivaient là. Le centre lança un coup de sonde, puis recula de terreur et de respect admiratif devant le pouvoir potentiel de ces autres êtres. C'étaient les lions, les tigres et les ours dont parlait Humon. La persona du centre qui déclarait avoir créé et tué mon père. La retraite du centre avait été si hâtive, sa reconnaissance de l'univers de l'espace de Planck si incomplète, qu'il n'eut pas la moindre idée de l'endroit du véritable espace-temps où résidaient ces lions, ces tigres et ces ours, ou même s'ils existaient dans le temps réel. Les IA du centre furent tout aussi incapables d'apprendre si les autres êtres avaient évolué à partir d'une vie organique, comme l'humanité, ou bien d'une vie artificielle comme eux. Mais ce bref coup d'œil leur révéla que ces autres êtres pouvaient manipuler le temps et l'espace avec autant de facilité
que les êtres humains avaient autrefois manipulé le fer et l'acier. Un tel pouvoir dépassait toute compréhension. La terreur pure et le retrait immédiat, telle fut la réaction du centre. Cette découverte et la panique qui s'ensuivit se produisirent juste au moment où le centre amorçait la destruction de l'ancienne terre. Le poème de mon oncle Martin chante que c'est le centre qui organisa la grande erreur de 08, le groupe de Kiev lâchant accidentellement un trou noir dans les boyaux de l'ancienne terre. Mais son poème ne parle pas, parce qu'il ignorait, de la panique du centre en découvrant les lions, les tigres et les ours, et comment les IA s'empressèrent d'arrêter la destruction programmée de la terre. Ce ne fut pas facile de sortir le trou noir en pleine croissance du cœur de la planète en train de s'effondrer, mais le centre en conçut les moyens et accomplit la chose en toute hâte. Puis, notre planète natale disparut. Non pas détruite comme le croyaient les humains, ni sauvée comme le centre l'avait espéré, seulement partie. Le centre savait que la Terre avait été emportée par les lions, les tigres et les ours, mais comment, et où, et pour quelle raison? Ils n'avaient pas le moindre indice là-dessus. Ils calculèrent la quantité d'énergie nécessaire pour distransporter une planète entière, et ils recommencèrent à trembler dans leurs bottes d'hypervie. De telles intelligences pouvaient faire exploser le cœur d'une galaxie afin de l'utiliser comme source d'énergie aussi aisément que les êtres humains allumaient un feu de camp par une froide nuit. Les entités du centre en chièrent de trouille dans leur froc d'hypervie. Je vais être obligé de reculer de nouveau dans le temps, afin d'expliquer pour quelles raisons le centre décida de détruire la Terre, puis tenta de la sauver. Ces raisons remontaient au MAD de 80 octets créé par Tom Ray. Comme je l'ai expliqué, la vie et l'intelligence qui évoluèrent dans l'infosphère ne connaissaient pas d'autres formes d'évolution que le parasitisme, l'hyperparasitisme et l'hyper-hyper-hyperparasitisme. Mais le centre était conscient des défaillances du parasitisme absolu et savait que le seul moyen de dépasser le statut et la psychologie du parasite, c'était d'évoluer en réagissant à l'univers physique, c'est-à-dire d'acquérir des corps physiques en plus des personas abstraites du centre. Celui-ci possédait des entrées sensorielles multiples et pouvait créer des réseaux neuraux. Mais ce qu'exigeait une évolution non parasitaire, c'était un système constant et coordonné de circuits de rétroaction neurale, c'est-à-dire des yeux, des oreilles, une langue, des membres, des doigts, des orteils, des corps. Le centre créa des cybrides, des corps qu'il faisait pousser à partir d'ADN humain, mais qui étaient reliés au persona du centre par le canal large. Cependant, il était difficile de garder le contrôle des cybrides qui, une fois débarqués dans le paysage humain, devenaient des étrangers. Les cybrides ne se sentaient pas à l'aise sur des mondes habités par des milliards d'êtres humains évolués organiquement. C'est pourquoi le centre décida de détruire l'ancienne Terre et de ne garder que 20% de la race humaine. Le centre avait prévu, après la mort de l'ancienne Terre, d'incorporer ces éléments survivants dans leur univers habité par des cybrides, d'en faire une réserve d'ADN et un pool d'esclaves, à peu près comme nous utilisons les androïdes. Mais la découverte des lions, des tigres et des ours, et leur retraite épouvantée de l'espace de Planck, compliquèrent ce plan. Jusqu'à ce que la menace représentée par ces autres êtres soit évaluée et éliminée, le centre devrait poursuivre sa relation parasitaire avec l'humanité. C'est pourquoi il conçut les distrances dans l'ancien Retz. Pour les humains, le voyage par distance était instantané. Mais dans la topographie dépourvue de temps de l'espace de Planck, le centre pouvait prolonger aussi longtemps qu'il le souhaitait le temps séjour subjectif. Durant cette période, le centre se branchait sur des milliards de cerveaux humains, se servant de leur esprit des millions de fois par jour standard, afin de créer un immense réseau neural qu'il utilisait pour ses propres buts informatiques. Chaque fois qu'un être humain franchissait un portail distance, c'était comme si le centre trépanait le crâne de cette personne, en ôtait la substance grise, posait le cerveau sur un établi et le branchait aux milliards d'autres cerveaux de leur ordinateur organique géant en traitement parallèle. Les humains sortaient de l'espace de Planck avec l'impression que le passage n'avait duré qu'une seconde subjective de leur temps et ne prenaient jamais conscience du désagrément qu'ils venaient de subir. Humon dit à mon père, le cybride de John Keats, que le centre comportait trois camps en guerre,
Les ultimistes, obsédés par la création de leur dieu, l'intelligence ultime? Les volages qui souhaitaient éliminer l'humanité et poursuivre leur propre but? Et les stables qui voulaient maintenir le statu quo vis-à-vis de l'humanité? Cette explication était un mensonge absolu. Il n'y avait pas, et il n'y a pas, trois camps dans le technocentre, mais des milliards. Le centre est l'application ultime de l'anarchie et de l'hyperparasitisme porté à son niveau ultime. Les éléments du centre luttent pour le pouvoir au sein d'alliances qui peuvent durer des siècles ou des microsecondes. Des milliards de personas parasites concluent et annulent des alliances impossibles dans le seul but de contrôler ou prédire les événements. Vous comprenez? Les personas du centre refusent de mourir à moins d'y être forcés. Les bombes de mort lancées par Mayna Gladstone contre le milieu d'Istrance causèrent non seulement la chute des Distrances, mais tuèrent des milliards de personas soi-disant immortels du centre. Mais les individus refusent de faire face à d'autres sans se battre. Pourtant, l'hypervie du centre a besoin de la mort pour évoluer. Et la mort, dans l'univers du centre, a son propre ordre du jour. Le programme de la faucheuse que Tom Ray créa il y a plus de 1000 ans subsiste toujours dans le milieu du centre. Il a muté en 1 million de formes alternées. Humon ne parla jamais des faucheuses comme d'une faction du centre, mais elles représentent un bloc bien plus important que les ultimistes. Ce sont les faucheuses qui, les premières, ont créé et contrôlé l'assemblage physique connu sous le nom de Gritch. Il est intéressant de noter que ces personas du centre qui survivent aux faucheuses ne le font pas seulement grâce au parasitisme, mais grâce à un parasitisme nécrophile. C'est la technique qui permit aux formes de vie artificielles de 22 octets d'évoluer et de survivre dans la machine à évolution virtuelle de Tom Ray il y a des siècles et des siècles. Voler le code de duplication d'autres créatures à octets, désaligner, faucher en plein acte de reproduction. Les parasites du centre ont bien un comportement sexuel, mais en plus, ils baisent avec les morts. C'est ainsi que des millions de personas mutantes survivent aujourd'hui, par hyperparasitisme nécrophile. Qu'est-ce que le centre veut tirer de l'humanité actuellement? Pourquoi a-t-il revivifié l'Église catholique et permis à la Pax de naître? Comment les cruciformes opèrent-ils et en quoi servent-ils le centre? Comment fonctionnent vraiment les prétendus archanges à propulsion Gédéon et quel est leur effet sur l'espace qui lie? Quelles mesures le centre a-t-il prises concernant la menace que constituent les lions, les tigres et les ours? Nous discuterons de ces choses-là une autre fois.
C'est le lendemain du jour où nous avons appris l'arrivée de la Pax et je travaille la pierre sur les échafaudages les plus élevés. Les premiers jours qui suivirent mon arrivée, je crois que Rachel, Théo, Jigmé Norbu, Georges Tsarong et les autres doutaient que je puisse gagner ma vie sur le chantier de construction de Swang Kung Su. Je reconnais que j'ai eu moi aussi des doutes en découvrant leur dur labeur et leur savoir-faire. Mais après avoir appris pendant quelques jours les cordes de l'équipement et les protocoles de l'escalade, le son pratiqué sur les parois rocheuses, les corniches, les câbles, les échafaudages et le glissoir de cette région, je me portais volontaire pour le travail et on m'accorda la possibilité d'échouer. Je n'échouais pas. Aîné était au courant de mon apprentissage auprès d'Avrol Hum, qui comprit non seulement l'aménagement des immenses domaines du bec, mais aussi le travail du bois et de la pierre pour la construction des folies et des ponts, des belvédères et des tours. Ce travail me servit bien ici, et en 2 semaines, je passais de l'équipe de la construction élémentaire des échafaudages au groupe d'élite des monteurs et des maçons travaillant sur les plateformes les plus élevées. Les plans d'aînés permettaient de faire monter les structures les plus hautes jusqu'au grand surplomb rocheux et d'incorporer dans cette pierre différents passages pour piétons et parapets. C'est à cela que nous travaillons actuellement, ciselant la roche, posant des briques pour le chemin qui longe le vide, et nos échafaudages s'avancent périlleusement loin au-dessus de l'abîme. Depuis 3 mois, mon corps est devenu plus mince et plus vigoureux, mon temps de réaction est plus court, et mon jugement plus prudent à force de travailler sur des parois rocheuses à pic et du bambou bonsaï glissant. L'homo Dondrub, maître dans l'art du paraglisseur et de l'escalade, s'est porté volontaire pour gravir sans corde le surplomb
afin d'y poser des points d'amarrage pour les derniers mètres d'échafaudage et, pendant la dernière heure, Vicky Grosselge, Kim Byung-soon, Haruyuki Otaki, Kenshiro Endo, Chang-chi Kengchung, Lapsang Samtem, plus quelques autres briquetiers, maçons, monteurs en altitude et moi, avons regardé l'homo progresser, sans protection, sur la paroi rocheuse, au-dessus du surplomb, se déplacer comme la proverbiale mouche de l'ancienne terre, et ses jambes, ses bras puissants tendus sous le mince tissu de son vêtement d'escalade, trois points toujours en contact avec la pierre glissante plus que verticale, tandis que sa main ou son pied libre cherche à tâtons le plus léger point rugueux sur lequel s'appuyer, la plus petite fissure ou crevasse dans laquelle enfoncer un coinceur pour notre ancre. Le contempler est terrifiant, mais aussi un privilège, comme si on allait à reculons dans une machine à voyager dans le temps pour regarder Picasso peindre, ou entendre George Wu lire de la poésie, ou Mayna Gladstone prononcer un discours. Une douzaine de fois, je crois que l'homo va se détacher et tomber. En quelques minutes, il pénétrerait en chute libre dans les nuages de poison, mais chaque fois, par magie, il reste en place ou trouve un point de friction ou découvre miraculeusement une fissure dans laquelle il peut coincer une main ou un doigt qui soutiendra tout son corps. Pour finir, c'est fait. Les cordes sont ancrées et pendent, les pitons du câble sont fixés, et l'homo descend en glissant de son premier point fixe, parcourt 5 mètres latéralement, se laisse tomber dans les étriers de l'équipement suspendu et saute prestement sur notre plateforme de travail comme quelques légendaires super-héros en train d'atterrir. Lapsang Samtem lui tend un pot de bière de riz glacée. Kenshiro et Vicky lui donnent des claques dans le dos. Shang-Chi Kengchung, notre maître charpentier aux moustaches cirées, entame un chant de louanges paillard. Je secoue la tête et souris comme un idiot. C'est un jour vivifiant. Un dôme de ciel bleu, la montagne sacrée du nord, Hengshan, scintillant de l'autre côté du gouffre de nuages et de vents modérés. Aîné dit que la saison des pluies va arriver dans quelques jours, une mousson du sud qui apportera des mois de pluie, une roche glissante et peut-être de la neige. Mais par un jour aussi parfait que celui-ci, tout cela semble improbable et lointain. On me touche le coude. Aîné est là. Elle a passé la plus grande partie de la matinée sur l'échafaudage, ou suspendue dans son harnais contre la paroi déjà ouvrée, à superviser la construction de pierres et de briques du chemin et des parapets. Je souris encore largement de la poussée d'adrénaline indirecte qu'a provoqué en moi le spectacle offert par l'homo. « On va pouvoir gréer les câbles, dis-je. 3 ou 4 jours de plus et la chaussée en bois sera installée ici. Puis ta dernière plateforme, là. Je montre du doigt le bord ultime du surplomb. Et voilà. Ton projet sera achevé, ma grande. Il ne restera plus que la peinture et le polissage. » Aîné hoche la tête, mais visiblement son esprit est ailleurs qu'à la célébration qui se déroule autour de l'homo ou à l'achèvement imminent de son année de travail.
« Tu veux bien marcher un peu avec moi, Rol ?»
Je la suis. Elle descend les échelles jusqu'à l'un des niveaux permanents, puis s'engage sur une corniche de pierre. De petits oiseaux verts s'envolent d'une crevasse lorsque nous passons. Vu sous cet angle, le temple suspendu dans les airs est une œuvre d'art. Le rouge sombre de la charpente peinte scintille plutôt qu'il ne rougeoie. Les escaliers, les rampes et les parties chantournées sont élégants et complexes. Beaucoup de pagodes ont leurs cloisons shoji ouvertes, la literie et les banderoles de prière s'agitent dans la brise tiède. Il y a 8 beaux sanctuaires en ordre ascendant, chacun d'eux représentant une étape sur le noble sentier octuple, comme l'a nommé le Bouddha. Ils s'alignent sur les 3 axes relatifs aux 3 parties du sentier, la sagesse, la moralité et la méditation. Sur l'axe ascendant des escaliers et des plateformes de la sagesse, se trouvent les sanctuaires de méditation sur la compréhension juste et la pensée juste. Sur l'axe de la moralité se trouve la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste et l'effort juste. On ne peut atteindre ces derniers sanctuaires de méditation qu'après une rude escalade, par un escalier qui ressemble plutôt à une échelle, parce que, comme Aîné et Kempo Ngawang Tashi me l'ont expliqué, un de mes premiers soirs ici, le Bouddha a voulu que son chemin soit un engagement ardu et opiniâtre.
les pagodes de la méditation les plus élevées sont consacrées à la contemplation des deux dernières étapes du noble sentier octuple, l'attention juste et la méditation juste. Cette dernière pagode, je l'ai aussitôt remarquée, ne donne que sur le mur de pierre du versant de la montagne. J'ai aussi noté qu'il n'y avait pas de statue du Bouddha dans le temple. Le peu que grande dame me révéla sur le bouddhisme, quand je la questionnais, étant enfant, après être tombé sur une référence à cette religion dans un vieux livre de la bibliothèque de Moore's End, ce fut que les bouddhistes révéraient des statues représentant le Bouddha. « Où était-elle » avais-je demandé à Aînée. Elle m'expliqua alors que sur l'ancienne terre, la pensée bouddhiste avait été divisée en deux grandes traditions. L'Hinayana, la plus ancienne école de pensée, à laquelle fut attribué le terme péjoratif de « petit véhicule » par l'école plus populaire du Mahayana qui, elle, se proclamait le grand véhicule. Il y avait autrefois 18 écoles d'enseignement Hinayana qui toutes considéraient le Bouddha comme un maître, préconisant la contemplation et l'étude de son enseignement et non son adoration. Mais à l'époque de la Grande Erreur, seule une de ces écoles survécut, le Theravada, et uniquement dans les régions isolées, ravagées par la maladie et la famine, du Sri Lanka et de la Thaïlande, deux provinces politiques de l'ancienne terre. Toutes les autres écoles bouddhistes qui émigrèrent lors de l'égire appartenaient au Mahayana, école qui se concentrait sur la vénération de la statuaire bouddhiste, la méditation en vue du salut, les robes safran et autres signes extérieurs que grande dame m'avait décrits. Mais m'avait expliqué Aînée, sur Tien Shan, le monde des confins ou de l'ancienne hégémonie le plus influencé par le bouddhisme, cette religion était revenue à la rationalité, à la contemplation, à l'étude, à l'analyse attentive et sans idée préconçue de l'enseignement du Bouddha. Il n'y avait donc pas de statue à Suan Kung Su. Nous nous arrêtons à l'extrémité de cette corniche de pierre. Des oiseaux filent comme une flèche et tournent en dessous de nous, attendant que nous partions pour pouvoir retourner à leur nid dans des fissures.
Qu'y a-t-il, ma grande ?
La réception au palais d'hiver de Potala aura lieu demain soir,
dit-elle. Son visage est rouge et couvert de poussière après son travail de la matinée sur les échafaudages élevés. Je remarque qu'elle s'est faite une estafilade au front où perlent quelques minuscules gouttelettes de sang.
Charles Chikyap Kempo va rassembler un groupe de personnalités importantes qui ne seront pas plus de 10,
continue-t-elle.
Kempo Nga Wang Tashi, bien sûr, ainsi que le contremaître Tsipon Chakabpa, Gyalo, le cousin du Dalai Lama a entendu parler de ses hauts faits et aimerait faire sa connaissance, Tromo Trochi de Domu, en tant que négociant, et l'un des chefs d'équipe qui représentera les ouvriers, soit Georges, soit Jigme.
Je n'imagine pas l'un sans l'autre, dis-je.
Moi non plus. Mais je pense que ce sera Georges. Il sait parler. Peut-être Jigme viendra-t-il avec nous et attendra-t-il en dehors du palais.
Ça fait 8. Aînée me prend la main. Le travail et les écorchures ont rendu ses doigts rêches, mais je trouve qu'ils sont toujours les doigts humains les plus doux et les plus élégants de l'univers connu.
« Je suis la 9e, » dit-elle. « Il va y avoir un monde fou, des envoyés de toutes les villes et provinces de l'hémisphère. Nous ne nous trouverons sans doute jamais à moins de 20 mètres de quelqu'un de la Pax. »«
Ou vous serez les premiers qu'on leur présentera, la loi de Murphy, etc. »
« Oui. »
Le sourire d'Aînée est exactement celui que j'ai vu sur le visage de mon ami de 11 ans, quand il se préparait quelque chose de coquin et d'un peu dangereux.
« Tu veux bien m'y accompagner ?»
Je respire enfin. Je ne voudrais pas manquer cela pour tout l'or du monde.